Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live Twitch où on est toujours un peu plus à l'arrache. Je suis avec Jean-Loup. Est-ce que tu vas bien, Jean-Loup?
Ça va très bien, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien. Et non, non, on n'est pas du tout à l'arrache. Fin prêt, on a réussi à ce que je partage mon écran. Non, en fait, pas du tout. Non, tout va bien.
Mais je ferai les recherches si besoin. Est-ce que vous allez bien dans le chat pour ceux qui sont déjà là? Vous avez vu maintenant, je lance le live genre 30 secondes avant que ça commence, hein. Alors attendez, en fait je suis même pas sûr que vous m'entendiez. Ah si, vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez moi et Jean-Loup, ok. Normalement ça devrait le faire. Et niveau balance, Jean-Loup, on n'a même pas fait la balance correctement.
Non, je sais pas.
T'es
Ça,
un peu
c'est.
plus fort que moi, je pense. Attends, je vais te baisser
Ah
un
ouais,
peu,
je sais pas.
sinon je vais être jaloux. Vas-y, parle un peu en continu.
Ouais, vas-y, je parle un peu en continu. Vous avez
Ok.
la balance en direct de Rodolphe
Est-ce
et moi. C'est magnifique.
que tu vas bien? Quoi de neuf?
Depuis que tu es parti de Toulouse il y a à peu près 24 heures,
Ah
après avoir.
ouais, on peut leur dire ça déjà. Donc déjà, j'ai pas préparé grand-chose parce que la semaine dernière, c'était une de mes deux grosses semaines d'enseignement dans l'année. Donc j'ai fait quasiment que enseigner. Et comme j'enseignais à Toulouse et que Jean-Loup habite à Toulouse, j'ai squatté chez Jean-Loup.
Salut. Il a vu qu'il y avait vraiment un vélo derrière qui servait à pas grand-chose à part porter les manteaux.
C'est un vrai vélo, hein. C'est pas juste pour la déco. Tu l'utilises pas. Pourquoi Jean-Loup ton vélo?
Ben alors l'été je le sors pour faire des randos en vélo. Du coup la dernière fois on a fait Amsterdam-Stockholm avec un pote cet été. Et sinon pendant l'année quand je ne le sors pas, je regarde des films ou des vidéos YouTube en pédalant sur Zwift, cette magnifique application qui te permet de tourner autour d'un volcan en Nouvelle-Zélande a priori je crois.
Et en
Ou
ayant de
un
la
truc du genre.
biodiversité sur le bord de la route, tu m'as dit.
Et oui, il y a des dinosaures et tout. Ouais, donc moi, tu sais, je suis grand fan de biodiversité. Donc,
Ah
ouais, je me
ouais.
régale. Je vois des trucs incroyables. C'est vraiment, vraiment
Franchement,
chouette.
si vous connaissez pas beaucoup la biodiversité, faites des tests avec Jean-Loup, vous vous sentirez mieux.
Ouais, je suis pas hyper fort. C'est
Et donc voilà, j'ai pu profiter de cet appartement spartiate.
vrai.
On a pris quelques photos pour notre future vidéo. Et peut-être une séquence vidéo qu'on gardera ou pas. J'ai découvert. Je suis presque convaincu par l'autocuiseur, pour être honnête.
Ah ben tu sais que là bon, on le voit derrière d'ailleurs hein. Tu
On
le vois
le
là, il
devine
est
en
juste
haut.
là,
Ouais,
il est juste là au bout de l'effaceur
mais
et
t'es un
ouais
peu crop en fait
ah mince mince
sur
mince donc les
Twitch.
gens peuvent
On en voit un tout petit
ah
bout, faut savoir qu'il est là.
ah purée quel dommage et écoute je vais devoir attendre la fin du live pour manger ma ration. Voilà, c'est très triste mais bah,
J'ai
pour
même eu le
vous et
droit
pour
à un petit repas à cuisiner avec amour par Jean-Loup. C'est quelque chose.
Ouais, gourmet, gourmet, on appelle ça. De la grande cuisine, n'ayons pas peur des mots.
Et donc, ce soir, j'espère que le fait qu'il n'y ait pas eu de live la semaine prochaine, on sera quand même quelques-uns sur ce live. N'hésitez pas à faire un peu de pub sur les réseaux sociaux pour compenser ce manque d'organisation et de communication de ma part. Et ce soir, on va discuter un peu de ton très récent livre avec
Ouais,
Lé, quoi.
exactement. Ouais, ça y est, il est sorti. Alors, je suis très
Attends,
content pour toi.
je vais faire la mise au point quand même sur ta tronche.
Tu veux dire avec mon regard complètement illuminé là?
Oh, ça va, ça donne envie de
Oui,
l'acheter.
oui.
Ça donne envie de l'acheter.
Bah, j'espère. Écoute, écoute. Non, c'est bien. Lé a l'air très sympa et studieux sur la couve. Moi, j'ai l'impression que je suis un hacker russe.
Ça fait un
Mais c'est
équilibre.
très. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On a l'air complémentaires sur nos approches du coup.
Et donc,
Et ouais, je suis
la
content. Toi,
dictature des
t'as.
algorithmes. Ouais. Et moi, j'ai une
Ouais.
version
T'as.
maintenant à moitié dédicacée, du coup. Il manque
Ah
plus
ouais,
qu'il y ait
exactement.
l'étiquette de. Voilà,
De lait.
les, faut que je te croise physiquement quelque part. Je sais pas s'il nous entendra, mais. Parce que j'ai une dédicace sur deux, c'est un peu dur,
Ouais, il faut la totale, ouais.
quoi. Ouais.
Et t'as pas dit le sous-titre, qui est quand même un truc qui est aussi issu de toutes nos discussions avec Léo ou avec toi ou avec d'autres au cours de ces derniers mois. Hein.
Une transition numérique démocratique est possible. Voilà.
Exactement. Pour prendre le contre-coup de plein de choses. Et de toute manière, c'est plus facile de dire que c'est possible. C'est-à-dire que dire que quelque chose est possible, c'est moins puissant que de dire que quelque chose est impossible. Donc,
Tu voulais pas
en
tenter
vrai,
le bandeau, une transition est impossible là, c'était déjà trop vu, c'est ça?
ben, c'est surtout, non seulement c'est vu, mais ça marche. Franchement, en termes de. Je pense que pour le coup, il y a un côté marketing qui marche bien. Mais c'est juste que c'est plus. Il faut avoir plus d'assurance et de confiance pour dire que quelque chose est impossible. Et c'est un truc qu'on n'a pas, je pense, assez dit. C'est que pour dire que quelque chose est impossible, c'est quoi? C'est Popper ou quelqu'un qui faisait de l'épistémologie qui disait.
Poppers,
Non,
Popper
c'est pas ça?
peut-être, Popper
Ah, Popper,
peut-être.
pardon. Pardon, Popper. Ah putain, j'ai rajouté un S chelou. Mais qui disait ça, qui disait on voit la puissance d'une théorie scientifique au nombre de choses qu'elle rend impossible ou qu'elle décrit comme étant impossible.
Ouais,
C'est quoi ça là? C'est quoi la citation exacte?
je peux la retrouver, je peux la retrouver.
Ouais, mais c'est un truc comme ça. Hein.
Peut-être, peut-être, ouais. Attends, je les en ai un cours quelque part parce que je leur ai lu aux élèves.
Ah bah tu vois.
Je vais les retrouver. Et donc, ce bouquin, il est sorti quand?
Il est sorti le 21 mars.
Récent, récent.
Donc, ouais, récent. Et assez récent, on n'a pas encore de revue sur Amazon. Donc, n'hésite pas à laisser des revues pour que l'algorithme d'Amazon, pour le coup, recommande plus ce genre de livre pour les algorithmes. Parce que c'est un truc, on en a parlé d'ailleurs aujourd'hui avec Lé, et c'est un algo de recommandation dont on n'a pas parlé dans le livre. C'est l'algo de recommandation de la plateforme Amazon. Et si tu veux te faire peur, juste va taper Climate sur Amazon et regarde les livres qui te sortent.
Ouais, non, je vois le style,
Il y a un sujet aussi sur. Là. On n'en parle pas dans le livre pour le coup de celui-là.
ouais, je vais pas retrouver la citation parce que j'ai les cours que sur le
Aïe, aïe,
portable.
aïe.
Mais ouais. Ok, et pour l'instant, tu sais si vous en avez vendu déjà ou c'est
Oui,
le
enfin,
seul
je sais
exemplaire
qu'on.
dans la nature?
Non, je crois que c'est pas le seul. Enfin, si, déjà, il y a 10 exemplaires dans la nature à moi et personne ne sait où ils sont. Ils sont à Aulnay-sous-Bois, ils sont ni chez l'éditeur ni chez moi, a priori. Ouais, il y a déjà 10 séchés.
Mais ton
Et.
livre existe, j'en suis le témoin.
Ouais, exactement. Donc, si c'est un coup monté, ils ont au moins donné à quelques potes, dont toi, pour que je sache qu'il existe ou que je crois qu'il existe vraiment. Mais ouais, non. Après, non, on n'a pas de chiffres de vente et tout. Juste, on a eu quelques retours, mais c'est même pas des retours pour l'instant, c'est surtout des gens qui prennent en photo le livre parce qu'ils l'ont acheté. Ce qui est déjà trop bien, hein, mais on n'a pas de retour critique. À part quelqu'un sous le live qu'on a fait avec Lé, il y a quelqu'un qui lit et qui, page par page, fait des commentaires, et notamment la personne en l'occurrence n'aime pas du tout la manière dont étaient faites les notes. Parce qu'on
Ah.
a, je crois que les notes, c'est des notes par chapitre.
Ouais.
Tu vois, pour le coup, ça
Ah. Ah, les
c'est un peu.
références, les références.
Ouais, les références et les notes. Ouais.
Parce que les notes,
On a fait.
c'est juste en dessous de la page.
Ah, ok.
Donc
Ouais, mais il y a écrit
c'est.
notes à la
Ah
fin, donc c'est
oui,
un peu
note et ref.
bizarre.
Ouais, les trucs numérotés. En fait, il y a des trucs avec des astérisques en bas de la page. Et
Ouais, voilà,
puis
c'est
après, il y a
ça.
des trucs
Après, il y a les notes.
numérotés et c'est par chapitre au lieu de numérotés sur tout le long. Ouais.
Ouais, c'est ça. Moi, en l'occurrence, à la base, mais ça, c'est vraiment des trucs d'éditeur. Hein. Moi, perso, je préfère le plus possible est en note de bas de page, quitte à ce que les notes de bas de page prennent la moitié de la page, parce que je trouve que c'est vachement plus pratique.
Et même les refs? Ou juste les notes en bas de page?
Non, juste, en fait, moi, je suis pour mettre beaucoup de choses en note de bas de page. Et après.
Ouais, je pense aussi. Parce que même pour les références,
Mais
c'est utile, tu vois directement si
ouais.
c'est une publi ou si tu la connais.
Exactement.
Notamment pour ceux qui connaissent, c'est plus utile. Ouais.
Donc moi je suis pour ça, mais en fait je crois que les éditeurs ils aiment pas trop. Ils aiment bien quand tu vois il y a un truc de ça fait propre, tu vois, c'est tout carré, il y a juste une page, il y a que du texte, et t'as pas des refs et des notes qui font la moitié de chaque page. Donc bon, on s'est fait un peu driver sur ça. Donc après voilà. Donc ça c'est le plus gros retour qu'on ait pour l'instant. C'est quelqu'un qui lit consciencieusement et qui nous laisse un commentaire à chaque fois qu'elle a un retour sur le live YouTube.
Pas mal,
Donc voilà.
pas mal, pas mal.
Ça veut dire quoi ça, Eféol, c'est l'algo des 800 Indiens. Attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas capté là. C'est peut-être une blague.
Non plus. Mais c'était l'alco sur les bouquins. J'ai pas relevé, j'ai pas compris. Eiffel peut peut-être.
Ah! En tout cas, si vous tapez Climate sur Amazon, moi, dans les premiers résultats, j'ai un truc notoirement qui s'appelle Climat, la part d'incertitude de Kunin. Et je sais que, enfin, moi, je ne l'ai pas lu et tout ça,
Ah oui,
mais
bah oui,
je sais que
c'est
ça.
l'Américain qui en a pondu son truc là.
C'est
Mais
ça.
s'il y en a qui ça intéresse, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une critique, mais elle est publiée nulle part, donc elle est difficilement accessible. Mais c'est quand même beaucoup d'arguments qu'on avait déjà vus ailleurs.
Oui, c'est ça,
Ah, c'est
c'est
news
un
il y a une
pot-pourri.
semaine ou deux apparemment, l'alco des 800 Indiens.
Ah,
C'était après la publication des livres, donc tu n'as pas suivi.
ah bah exactement. Moi, de toute façon, depuis qu'on a publié le livre, je fais que de la thermo maintenant. Voilà, chacun, voilà, on a des périodes et des obsessions, et là,
Et je
voilà,
l'ai sous les
bah,
yeux,
c'est
la
comme ça.
théorie, le truc de Popper, là. C'est toute bonne théorie scientifique consiste à proscrire, à interdire à certains faits de se produire, sa valeur est proportionnelle à l'envergure de l'interdiction.
Exactement.
Donc
Donc,
effectivement, ce bandeau, il interdit
voilà.
pas grand-chose.
Exactement. Exactement. Donc, scientifiquement, on ne prend pas un énorme risque. Notre théorie n'est pas si puissante et prédictive que ça. Donc, tout va bien. On dit juste que c'est possible. Et d'ailleurs, dans la troisième partie, on se pose vraiment la question de dans quelle mesure des changements de paradigme de cette ampleur-là, c'est-à-dire des changements de paradigme tels que changer l'économie de l'attention ou ce que d'autres appellent le capitalisme attentionnel, dans quelle mesure et dans quel contexte ce genre de changement peut être possible, quoi.
Alors, on leur a dit qu'on parlerait de deux sujets. Tu te rappelles les deux questions?
Ouais, ah, je me rappelle très bien des deux questions.
La première,
Le
attends,
premier,
ouais,
ouais,
je suis perdu dans mes onglets.
bah,
Ah, c'est parce que je suis
moi je
là.
dis.
La première, c'est à quel point les algorithmes de recommandation pèsent dans la lutte climatique et globalement dans l'état du monde. Donc, c'est un peu votre première partie, ça, non?
Ah, c'est complètement la première partie. C'est comme la première partie avec. Alors ça
Est-ce que
rejoint
je peux
pas mal
trouver le
de choses
sommaire?
aussi qui sont pas mal décrites, hein, notamment dans Algocratie de Arthur Grimampon.
Que j'avais lu, que j'avais trouvé très cool.
Ouais, carrément. Mais je pense qu'on prend un peu un angle différent. On insiste sur des choses différentes. Je pense qu'il y a une manière d'amener le sujet qui est différente, mais c'est forcément hyper complémentaire. Il y a cette notion quand même d'interdépendance et de trucs où collectivement en fait on serait, en tout cas c'est ça qu'on essaie d'amener comme un organisme vivant et du coup on se pose des problèmes en tant que société globalisée à l'échelle de la planète. Donc ça on insiste pas mal dessus à la fin de la première partie. Donc ça c'est la première question et la deuxième question. Qui est d'ailleurs la question sur laquelle je voulais faire un livre à la base, et qui est une question que moi je trouve abyssale pour tous les gens qui se sentent concernés par des enjeux globaux. C'est vraiment ce truc-là de se dire on est assez intelligent pour savoir que on est insignifiant et qu'il y a quelque chose à faire au niveau global et du monde. Et c'est étouffant comme situation. C'est-à-dire que vraiment, je prends toujours cette comparaison du neurone dans un cerveau. On est un neurone assez intelligent pour savoir qu'il y a une crise d'épilepsie et assez humble pour savoir qu'on n'est qu'un neurone, quoi. Et comment faire, en tant que neurone conscient de la crise d'épilepsie, pour agir sans tomber dans différents travers et en gardant de l'espoir et en gardant de l'énergie parce qu'il faut bien faire quelque chose.
Une
Voilà, donc ça,
question,
c'est l'autre question.
une question après l'autre. Donc déjà, ouais, ces algos de recommandation, vite fait, de quoi on parle? Je pense que les gens qui nous suivent sont à peu près conscients du sujet, mais peut-être rappeler ça.
Ouais, carrément. Bah en gros, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, il est assez bon. Tu tapes climat dans Amazon, tu as une mécanique derrière qui va te donner des résultats plutôt que d'autres. Alors, tu peux. Alors la mécanique d'Amazon, je la connais pas en l'occurrence, mais ils doivent prendre en compte les notations. C'est-à-dire qu'ils doivent dire. Bon, mais je prends tous les livres où il y a climat dans le titre ou alors où il y a climat dans la description qui vont avoir le meilleur ratio de vente, note, etc., etc. En tout cas, il y a une logique qui donne un certain résultat. Et cette mécanique, c'est l'algo de recommandation, quoi. Qu'est-ce que l'algo ou la mécanique, la plateforme va mettre en avant? Et tu peux avoir alors il y a des algos de recommandation qui sont sur de la recherche, mais on s'intéresse dans le livre surtout aux algos de recommandation où il y a le moins d'input par les utilisateurs possible. Quand tu vas sur Google Actu, tu fais pas forcément de recherche, tu as déjà des résultats, quoi. Et voilà. Et l'algo de recommandation, c'est la mécanique qui te donne ces résultats. Et je sais pas si, mais je donne toujours cet exemple-là. Alors peut-être que les gens commencent à le connaître, et tant mieux s'ils commencent à le connaître. Mais peut-être que toi, tu te souviens de combien l'humanité regarde YouTube par jour?
Je sais qu'il y a genre beaucoup d'heures qui sont postées,
Ouais.
mais alors regardez, non, je sais pas, ça doit être
Ouais.
des centaines de millions d'heures facilement, non?
Ouais, en fait, alors le chiffre qu'on a, c'est un chiffre qui date de 2017 et il n'y a pas de chiffre plus récent parce qu'en fait, YouTube a pas révélé le chiffre après 2017, mais en
Ok.
2017, ils avaient révélé leur chiffre et c'était 1 milliard d'heures par jour. Donc l'humanité regarde 1 milliard d'heures par jour de YouTube. Et
Mais
ils estiment en gros.
ça fait
Ouais.
beaucoup quand même, non?
Ah ben, ah ouais,
Parce
ça.
que
Ouais,
si on
ça
est,
fait.
attends, si on est 8 milliards, ça veut dire que...
Ouais. Mais en fait, dis-toi, y a 3, en gros, il y a 2 milliards 8 d'utilisateurs sur YouTube.
Bah
Tu
mais
vois.
c'est pas possible qu'ils regardent 8 heures de YouTube.
Non, c'est 2 milliards 8. Donc, on regarde 1 milliard d'heures en tout. Ça veut dire que chaque utilisateur regarde en gros 20 minutes.
Ah
En
oui,
moyenne.
ah oui. Ouh là, je suis fatigué, oui.
T'inquiète.
Ouais, non, mais là ça se tient du coup.
Ouais, ça tient.
Ouais.
Non, l'ordre de grandeur est l'ordre de grandeur est correct. Après, si tu mets les autres plateformes, tu arrives sur des chiffres, ils estiment à 2 milliards d'heures, quoi. Mais en gros, les ordres de grandeur, c'est milliards d'heures. Okay.
Encore des
D'ailleurs,
milliards d'heures qui nous posent des problèmes.
ah,
Après les Bezos, c'est pas... Ah,
allez,
c'est...
tu sais quoi?
Tu
Hey,
l'avais, tu l'avais.
ouais,
Tu
j'avais.
l'attendais? Ou est-ce que je
Ouais, je
forme
savais
Jean-Loup
que.
au jeu de mots pourris aussi? Milliards
Ouais,
d'heures,
parce que
milliardaires, tout ça.
je suis complètement nul en jeu de mots, mais là, j'ai fait un stage intensif avec Rodolphe pendant une semaine. Donc. Je commence un petit peu plus à capter les trucs avant que ça arrive. Et ouais, encore des milliardaires qui nous posent des problèmes. Et donc, du coup, le truc, c'est de se
Attends, et
dire.
j'ai retenu un truc, tu vas me dire si c'est faux, parce que... Et je crois que 70% c'est recommandé de ça, ou quelque chose comme ça. Enfin, une grosse
Ouais, c'est
partie des
ça.
vidéos, c'est recommandé par l'algo, en fait.
Ouais, c'est ça. Alors oui, il y a une remarque. C'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent ça pour écouter de la musique, tu vois. Donc il y a plein d'usages différents. Mais ça, en gros, ça change pas les ordres de grandeur et la masse d'usage et le pouvoir de ces mécaniques-là. Et donc sur YouTube, ouais, à l'époque, c'était 70% des vidéos qui étaient recommandées. Nous, dans le livre, on fait un truc que, bah, forcément, que je trouve intéressant, mais je suis pas forcément hyper objectif, tu vois. Mais en gros, on dit, si tu fais l'équivalent de ces centaines de millions d'heures recommandées par YouTube, donc YouTube, ça veut dire que YouTube recommande par jour 700 millions d'heures. Regarde ce qu'on regarde ou ce qu'on écoute, 700 millions d'heures. Et bien, 700 millions d'heures, c'est l'équivalent de 25 000 du temps d'enseignement de 25 000 professeurs durant toute leur carrière. Donc, c'est-à-dire
OK.
que YouTube a le pouvoir, quelque part, de transmettre ou de choisir ce que va regarder ou écouter l'humanité autant que 25 000 professeurs vont enseigner au cours de toute leur carrière. Après, tu vois, tu te dis juste, bah, effectivement, si y a un tout petit, ne serait-ce qu'un soupçon, d'accentuation ou de recommandation de choses qui sont plutôt qui encouragent plutôt par exemple à l'inaction climatique, tu auras beau avoir tous les Rodolphe Meyer à l'ISAE du monde,
On pèse pas lourd, ouais.
il en faudra beaucoup, quoi. Et moi, c'est vraiment pour ça que je suis venu à réfléchir aux algos de recommandation à la base, parce que moi, à la base, le sujet qui me fascine et qui m'intéresse, c'est plutôt ouais, le climat et la transition énergétique, quoi. Et quand je me suis rendu compte que moi, en donnant et en enseignant à l'INSA ou dans d'autres écoles comme ça, que c'était hyper important, et en même temps qu'au regard de ce qui fait l'éducation de masse aujourd'hui au niveau de la planète, il y a clairement un enjeu sur les algorithmes de recommandation, c'est indéniable. C'est indéniable, on ne peut pas ne pas réfléchir à ça.
Il y a Athieu qui dit fais à l'instant l'expérience sur Amazon du François Gervais, du Christian Géraudot, donc des livres climato-sceptiques quand on cherche le climat sur et les personnes qui ne sont pas informées, elles vont aller sur les livres qui sont proposés et donc après elles vont avoir toute cette désinformation et il va falloir désapprendre ça si c'est possible. Et donc ça nous met un peu dans la. Ouais, dans la première partie, vous expliquez un peu ce que sont les algos de recommandation et le fait que maintenant, en fait, ce sont quelque part les journalistes ou les éditeurs de l'humanité.
Ouais.
Je sais plus exactement le terme que vous utilisez.
Rédac chef. On dit
Les
que
rédacteurs
les
chefs, ouais.
algos de recommandation, c'est comme des rédac chefs au niveau de l'humanité, quoi.
Et que ça a un pouvoir, que ça a un pouvoir immense. Et moi, je me souviens quand j'ai commencé YouTube, sur YouTube, il y avait quand même beaucoup de contenu climato-sceptique. Et pas grand chose en face, quoi. Maintenant, il y a un peu plus en face, il y a encore du contenu climato-sceptique. Et puis, on a toute cette question de qu'est-ce qui est mis en avant et pourquoi et comment fonctionnent ces algos et qu'est-ce qu'elles essayent d'optimiser, quoi. Avec le fait que ce qu'elles essayent d'optimiser, c'est la rétention sur les plateformes, en fait, parce que le modèle économique est lié à ça. Et du coup, les algorithmes n'ont pas intérêt à que vous appreniez des choses, elles ont intérêt à ce que vous restiez sur la plateforme. Et elles ont intérêt. Il y a cette citation assez terrible que vous avez de, je crois, du PDG de Netflix qui dit mon concurrent, c'est le sommeil. C'est dur, quoi. Donc, c'est le but de ces plateformes-là, c'est pas votre bien-être ou c'est pas votre bonne information. Après, il y en a qui essayent de twister leurs algos un petit peu. Je pense que YouTube a essayé de le faire un moment sur le climat.
Alors,
Et
ouais.
y a aussi un truc de. On peut en parler un peu plus longuement, mais il y a ce truc. Alors évidemment, là on en parle parce que c'est important pour les questions environnementales, mais nous on est en plus acteurs de ça. Moi, ma vie professionnelle et ma survie économique dépend de l'algorithme YouTube quand même. Donc, et y a un truc, c'est que je sais pas si on peut discuter de ça un peu. Il y a cette idée, t'as un algorithme qui essaye d'optimiser quelque chose. Qui est un but économique de rétention sur la plateforme. Parce que c'est comme ça que vous êtes exposé à la publicité, qui est ce qui rémunère ces plateformes-là. Et en fait, en faisant ça, ils mettent en avant le contenu qui va faire que vous restez sur la plateforme. Et il n'y a pas de calcul sur on connaît telle personne ou on sait que ce contenu fonctionne bien. C'est vraiment ça propose des contenus à certaines typologies de personnes. Et si ça fonctionne bien, ça va le proposer davantage à ces personnes-là. Et si ça fonctionne moins, ça va moins bien le proposer. Donc il y a. C'est pas un pilote humain qui dit on va montrer du climato-scepticisme par exemple. Quand ça fonctionnait bien sur YouTube, c'est genre il y a des vidéos climato-sceptiques et on se rend compte que certaines personnes en tombant là-dessus, elles trouvent ça fascinant, elles ont l'impression de mieux comprendre que tout le monde, elles continuent de regarder, elles restent sur la plateforme et du coup on leur donne davantage de ce contenu-là et il y a ce type de rétroaction qui se met en place, ce qui fait que l'algorithme échappe complètement à ses créateurs, quoi.
Ben en fait, alors, il y a deux choses. Il y a ce truc-là qui est qu'en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait des humains qui mettent des étiquettes pour que l'algorithme mette en lien certaines typologies et découvre quelque part certaines typologies. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'étiquette. C'est-à-dire que lui, il n'a pas d'étiquette. Il dit juste, là, je vois bien que cette grande catégorie, cette grande catégorie, mais il n'y a pas forcément d'humain qui a défini cette catégorie. Lui, il voit juste que ce genre de contenu va correspondre à ce genre de typologie. Il y a un exemple, j'en parlerai après, qui explique ça très bien et qui est très choquant, du coup, sa marque. Mais après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi, en plus, une activité humaine. Je crois que TikTok s'est fait, on en parle dans le livre, s'est fait choper parce qu'il y a des modérateurs qui modèrent et il y a une catégorie pour que les influenceurs, influenceuses moches aient moins de reach, quoi. Tu peux avoir les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Dans l'horreur, en gros, on peut utiliser les algos pour avoir la recommandation et en plus mettre des étiquettes. Et l'exemple, parce que ça, moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé apprendre et donc du coup, dont j'essaie de parler le plus possible, c'est que ce concept de l'algorithme n'a pas besoin d'étiquette, je le trouve vraiment hyper puissant. Un exemple, c'est, j'en parle tout le temps, c'est en 2019, il y a une maman au Brésil, elle a filmé sa petite fille dans la piscine, et en fait, elle a mis la vidéo, au bout d'une semaine, elle s'aperçoit qu'il y a 5000 vues. Alors toi, ça te paraît pas beaucoup, mais moi, je sais que c'est beaucoup, vu que c'est à peu près le nombre maximal que j'ai sur une vidéo.
J'ai jamais essayé de me filmer dans une piscine, donc je sais pas.
Ouais, mais bon, tu vois, je sais que c'est beaucoup dans le sens, c'est beaucoup de vues sur YouTube, c'est-à-dire que 5000 vues sur YouTube, ça arrive pas tout seul. Et 3 semaines après, elle avait 400 000 vues. La petite fille dans le truc. Et du coup, elle a tilté qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et en fait, effectivement, Google, YouTube a trouvé a posteriori que l'algo avait détecté que cette vidéo-là faisait partie d'un groupe qui plaisait à une certaine typologie et que si nous, on mettait des étiquettes, bien sûr qu'on mettrait l'étiquette contenu qui peut avoir ou révéler des tendances pédophiles ou exciter des gens pédophiles et qui a été mis en lien avec un groupe d'individus qui a des tendances pédophiles. Mais l'algo n'a pas eu besoin de ces concepts-là et de ces étiquettes. L'algo n'a pas besoin de connaître la colère pour la redécouvrir, en fait.
Ouais,
Et c'est nous qui, a posteriori, quand on regarde ce qui a bien marché, on se dit, ah ouais, en fait, l'algo, il a trouvé que pour maintenir les gens sur la plateforme, il faut qu'ils voient des chats, des mariages et des trucs qui les rendent en colère.
ouais.
Et ouais.
Je vais juste prendre quelques remarques.
Ouais, j'allais les prendre aussi hein, parce qu'il y en a, c'est des remarques qui reviennent tout le temps, donc en fait elles sont hyper importantes. Il faut en parler. Les deux premières là, de dur à trouver et de Heywind.
Ouais, dur à trouver, je vois la logique, mais de manière générale, je trouve ça dangereux qu'on puisse utiliser les algos de recommandation pour enseigner. S'il y a des dérives, ça peut faire bien plus de mal que de bien. Bah, tout votre bouquin et même Algorithmie, c'est sur les dérives. Je pense que cette image avec les profs que tu utilisais, c'était pas du tout pour dire que cet algo enseignait. C'est pour dire qu'elle a un pouvoir qui est énorme par rapport à l'enseignement qu'on fait à la main à côté.
Exactement. Et en fait, il y a aussi un truc qu'il faut voir. C'est que le statu quo aujourd'hui est catastrophique. C'est pas genre on va changer un truc qui va bien. On propose juste de se poser la question de changer un truc qui nous amène encore plus vite dans le mur. Du coup, il y a vraiment ce truc de faut arrêter de croire que tout va bien et qu'on va casser un truc qui marche bien. Non, le truc marche pas du tout. Et on est en train à peine de voir le début des problèmes de ce truc-là. Du coup, bah, c'est ça qu'il faut poser. C'est en fait, il faut poser aussi le risque effectivement de changer versus ce qui a déjà et où on est déjà conscient que ça va pas du tout. Et après, il y a l'autre biais qui est un biais hyper intéressant de ouais.
Ah non, vas-y, pardon.
Non, mais de ce que dit Aywin en fait, qui est individuellement. On peut tous et toutes avoir un usage des plateformes qui nous va bien. En fait, c'est vrai que tu peux individuellement, quelque part, apprivoiser ou dresser l'algorithme de recommandation pour qu'il te recommande des trucs qui vont bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux, par exemple, dès que tu as envie de regarder un peu de la merde, tu te mets en navigation privée et tu regardes des trucs, des chats, alors moi, des vidéos de skate, des vidéos de basket, etc., etc. Tu vois, parce que c'est pour éviter qu'après l'algo m'en propose trop ou des vidéos d'escalade. Tu vois. Il suffit de le regarder en fait, même pas en navigation privée, il suffit de le regarder en délogué.
Et l'algo te propose pas spontanément des vidéos sur la biodiversité et le chant des cigales.
Alors voilà, alors mon algo, moi, il est vraiment tranquille. Ah, sur la biodiv, il va jamais proposer de vidéo de biodiversité. Jamais, ça n'est jamais arrivé.
C'est marrant ce moment où tu cliques sur une nouvelle vidéo et là il t'ouvre un monde entier que tu n'as jamais découvert où tu as toutes les reprises en chanson de Hey, it's Delilah parce que tu écoutes tes chansons en boucle depuis une semaine et boum, tu tombes là-dedans quoi. Et en
C'est
fait,
pas.
ouais, et pour cette remarque d'Ewin, c'est vrai qu'on peut en faire des outils qui peuvent nous être utiles individuellement, mais vous, la question que vous posez, c'est pareil pour Algocratie, c'est quel est l'impact sur la société de ces outils-là, quoi.
Bah, c'est ça le truc, c'est que individuellement, tu peux te dire non, mais pour moi, ça marche bien. Et après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va émerger collectivement de ça. Parce que tu peux te dire, bah, moi, honnêtement, la bouffe sucrée et la malbouffe, j'aime pas trop, donc tout va bien. Sauf que tu es quand même confronté au problème de santé publique de l'obésité et de toutes les maladies cardiovasculaires qui sont augmentées par le fait que les gens mangent moins bien. Et c'est juste qu'en fait, chacun de nous va arriver à gérer certains trucs et le but de la société, c'est quand même faciliter ou encourager des comportements individuels qui vont faire que la société est plus stable, va vers du mieux, etc. Et c'est toujours le même problème avec les ceintures de sécurité, les limitations de vitesse, enfin, c'est toujours la même chose. Tu pourrais très bien dire, bah, moi, je conduis bien, donc en fait, je suis content de la manière dont je conduis, donc je ne mets pas de ceinture de sécurité, ou je n'ai pas besoin de limitations de vitesse parce que je les respecte. Pourquoi pas? La question, c'est quoi la manière optimale pour que les algos de recommandation fassent qu'on ait un univers informationnel le plus sain possible pour nos régimes et pour arriver notamment à résoudre ou en tout cas à atténuer les problèmes, notamment climatiques. Et le fait de dire individuellement j'y arrive, ça n'empêche pas. C'est comme individuellement, vous en sortez, mais en fait, votre enfant, par exemple, si vous avez un enfant qui va au collège, eh bien, il va potentiellement être harcelé alors que lui, il a un très bon usage d'Instagram et vous avez un très bon usage d'Instagram. Bon, il faut vraiment distinguer les deux, quoi. Individuellement, on peut s'en sortir, mais nous, ce dont on parle, c'est plutôt
L'impact sur la
les...
société de ces algos, quoi.
C'est ça.
Et il y avait une remarque aussi de Tiglo sur la polarisation. Et
Ouais.
c'est vrai que c'est une conséquence qu'on voit assez rapidement de ces algorithmes et de l'espace informationnel aujourd'hui. Et c'est lié à quoi? Au fait que les algorithmes. La colère fonctionne bien pour nous maintenir sur les plateformes, donc vont nous proposer des contenus polarisants
Alors, c'est marrant, mais il y a eu tout un débat années 2010 sur les bulles de filtre, tu sais, il y a. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un type dans les années 2010 qui a coiné le terme bulle de filtre. Là. Et en fait, cette thèse a été plus ou moins pris en défaut, tu vois, ou en tout cas on l'a nuancé, parce qu'en fait, et tous les gens qui sont là dans le chat et qui sont allés un jour sur Twitter savent que Twitter n'est pas une bulle de filtre, dans le sens où quand vous allez sur Twitter, vous allez être pas mal exposé au final à des takes qui sont mais vraiment aux antipodes des vôtres. Et donc, de dire que, par exemple, les algos de Twitter ou d'autres nous enferment dans des bulles de filtre, c'est pas si vrai que ça. Et on en a tous une expérience directe. Tu vas sur Twitter, tu vois des takes de dingue. Tu vas sur LinkedIn, tu vois des takes, mais c'est des dingueries sur dingueries.
Et ce
Mais
que
en
tu
fait,
vois
ce qui
pas,
se
c'est ce qu'il
passe...
y a entre les deux, en fait. C'est ce
Ah,
qui te fait naître.
exactement. En fait, non, ce que tu vois pas, c'est encore pire. Ce que tu vois pas, c'est les avis intelligents différents des tiens. Ceux-là, tu les vois pas. Tu vas avoir tendance, en fait, parce que c'est ça qui va optimiser le temps de... C'est une des stratégies qui fonctionne pour nous maintenir en haleine sur Twitter. Moi, je vois en plus parce que j'ai exactement ce rapport-là à Twitter. Ce qui me maintient, c'est vraiment les guerres et les gens qui disent des trucs que je trouve dingues. Et donc, ce que je vois, c'est pas la meilleure version du camp d'en face, Vraiment, il y a un encouragement à avoir la caricature du camp d'en face. Et sur ça, franchement, il y a une vidéo qui est vieille, mais qui est complètement monumentale. C'est une vidéo de... tu connais la CGP Grey?
Ouais.
Et il a fait une vidéo qui s'appelle En colère. Je la mets dans le chat. Elle est énorme sur ce thème. Elle dure 6 minutes. Franchement, je pense que c'est une des meilleures vidéos pour moi d'Internet. Hop, je l'ai mis là. Et c'est juste pour montrer à quel point le fait que la colère fonctionne a des impacts globaux et notamment comment on arrive à effectivement se mettre collectivement avec notre groupe en colère contre une caricature du groupe d'en face. Et donc les gens de droite vont voir les trucs les plus dingues proposés et défendus par la gauche et la gauche progressiste. Et la gauche progressiste va voir les trucs les plus dingues, dingues défendus par les conservateurs.
Ouais, et ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien. Même pour moi, je crois que je te l'avais montré, ce même. Attends, est-ce que je peux le remontrer? Je sais pas si tu le verras du coup. Je peux vous montrer un mème dégueu. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, en fait, j'ai pas les bonnes caméras. Bon, bah, je vous montrerai pas. Il y a un mème où il y a. Tu viens de coucher, le gars répond, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a tort sur internet et tu te sens obligé de lui répondre. Et ça fait un peu penser à ça.
Alors, il y a pas mal de trucs intéressants dans le
Ouais,
chat.
vas-y, ouais.
Juste pour la blague, parce que ça c'est très drôle, c'est que on parle de l'algo Twitter que Musk a massacré car il trouvait qu'il n'était pas assez recommandé. C'est vrai, enfin, a priori, c'est vrai. Je sais plus, j'ai vu ça sur un reportage qui est passé il n'y a pas longtemps. Musk aurait été jaloux de Biden parce que Biden, sur un pauvre truc de, je crois, de football américain, était plus retweeté que lui. Et il dit, mais qu'est-ce, il y a un bug dans le truc, et il a carrément harcelé les ingénieurs pour être en avant. Mais ça, c'est la blague. Et pour le truc le plus sérieux, c'est que il y a un côté, on a peur en France des milliardaires qui achètent des médias, et on a raison. Mais en fait, il faut voir que nos milliardaires, c'est un peu des boomers, dans le sens où aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir la main sur le truc qui, en termes d'information et en termes d'influence, est le plus puissant, bah, tu fais ce qu'a fait Musk. Tu rachètes un réseau social. Et c'est triste, hein, mais pour le coup, je pense qu'en termes d'influence, Musk a eu raison. Et stratégiquement, il n'a pas été si bête que ça sur ce coup. Alors après, faut pas qu'il plante sa plateforme, etc., etc. On est d'accord? Mais c'était quand même en termes de au XXe siècle, tu rachetais des médias et des groupes de médias et des chaînes de télé et tout ça. Ben, au XXIe, tu rachètes des réseaux sociaux.
Yes, alors il y en a qui ont les refs et qui savent que c'est XKCD qui a fait ce mème. Bravo, 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 parce que moi je cherchais la traduction en français, mais effectivement, belle ref.
Ah! Ouais,
Il est
c'est
très
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 très bon
fort,
ça.
donc c'est pas étonnant.
Ah, il est très
Et
fort.
bonjour à Loïc, qui est dans le chat. Donc voilà, ces algos, je pense qu'on en a une vision un peu plus claire. Est-ce que tu voulais rajouter des trucs? Alors,
Ouais,
vous parlez de pas mal de problèmes, hein, notamment une jeune qui s'est suicidée ou des effets de masse sur... génocide, on peut dire comme ça, des
ouais.
Rohingyas.
Bah. Bah oui, après là, on a pris les Rohingyas parce que c'est le cas le plus documenté, notamment par Amnesty International. Et en gros, le faut toujours faire attention parce que c'est toujours des phénomènes qui ont plein
Multifactoriel.
de multifactoriels. Et
Et
donc en
ils
fait,
vont se défendre comme ça souvent.
bah,
Ils en parlaient aussi, ouais.
même c'est leur grande défense, c'est ça. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu tous les arguments climato-sceptiques. Ça a été oui, mais c'est l'humanité, mais c'est pas que les activités humaines, parce qu'il y a tel ou tel autre facteur. Et en fait, le but du jeu, ça va être scientifiquement d'essayer d'appuyer avec le plus d'études et en finançant le plus d'études possible, et souvent de chercheurs tout à fait sincères dans leur démarche, mais qui vont s'intéresser à d'autres facteurs. Et en fait, en mettant en avant d'autres facteurs, quelque part, tu innocentes le facteur dont tu es responsable. Et bon, le tabac l'a fait, et les algos, enfin, les plateformes font la même chose. Donc quand tu dis, par exemple, que les algos de recommandation ont favorisé, par exemple, la tension et la polarisation qui a amené, par exemple, à la prise du Capitole, parce que tu vois, ça a entraîné de la polarisation politique, les plateformes vont te dire, c'est des phénomènes plus complexes que ça, on ne peut pas attribuer de responsabilité aux plateformes, sachant que si tu veux vraiment attribuer et faire de la recherche scientifique sérieuse sur ces sujets-là, il te faut avoir accès à quelque chose qui sont les données d'usage, et
Et c'est
qui
eux qui
a
les
ces
ont.
données-là, c'est eux qui les ont, et ils te les donneront jamais. Mais c'est magnifique. Et il y a eu un truc. Ouais.
Mais qu'ils les donnent pas, ça veut déjà dire quelque chose sur ce qu'on trouve
Mais
dedans.
exactement.
Parce que si ça les innocentait, ils auraient une raison de les donner, quoi. Donc.
Exactement. Non, non, mais ça c'est magnifique. Il y a eu un truc sur ça qui a été. Alors, on parle dans le livre du Rohingya, mais il y a eu aussi la guerre du Tigré, qui est dans la corne de l'Afrique, là, en Érythrée et Éthiopie. Je crois, je suis pas très fort en géographie, mais c'est là. Et en gros, il y a la Cour suprême maintenant de Facebook, qui est un organisme qui a été créé par Zuckerberg, parce que Zuckerberg en avait marre de. Enfin, en avait marre. il s'est bien dit à un moment, c'est lui qui doit décider à chaque fois qu'il y a un dilemme un peu éthique quelque part, comme il y a pas de régulation au niveau mondial, c'est quelque part les gros sujets, ça tombe sur sa table. On garde pas, etc. Et du coup, il a fait une cour suprême. Enfin, on appelle ça la cour suprême, mais en vrai, le terme en anglais, c'est Oversight Board. Donc, avec, je crois, c'est 30 juristes et vraiment des gens, par contre, impliqués dans des associations pour la paix, des juristes. Enfin, tu vois, c'est vraiment des gens qui sont concernés par tout ça et qui sont supposés donner des jugements sur il faut laisser, il faut retirer ce genre de contenu. Tu vois. Donc, tu peux leur dire, là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faudrait pas retirer ce genre de contenu qui, par exemple, appel à la haine contre les civils, contre d'autres civils au Tigré. Bon, finalement, au bout de 2 ans, ils ont conclu que oui, effectivement, il fallait retirer ce genre de contenu. Et donc, Facebook est obligé de suivre ce genre de recommandation de la part de cette Cour suprême. Et le Oversight Board a aussi insisté pour dire, et il faudrait que Facebook diligente une étude pour connaître l'étendue de leurs responsabilités dans les exactions commises lors de ces événements-là. Et Facebook a répondu, mais genre, non, enfin, ce genre d'étude is too time-consuming, et donc on ne le fera pas. Et là, tu fais, bon, ok, à partir de là,
Pourquoi ils l'ont fait,
c'est du génie. C'est du génie, c'est ouais, tout time consuming, d'accord. Et là, pour le coup, en fait, dans les statuts de Oversight Board, Facebook est obligé de suivre les recommandations de l'Oversight Board pour tout ce qui est retirer ou remettre du contenu. Mais par contre, les autres types d'injonctions ou de demandes ou de recommandations, ça c'est juste de la recommandation, quoi. Ils en font ce qu'ils en veulent. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, rien.
C'est dur comme constat. C'est...
Ah ouais, mais c'est là, et tu le disais à un moment, c'est tu disais, tu vois, YouTube a essayé de faire des choses. Mais en fait, si tu veux, YouTube peut pas trop faire de choses. Parce qu'en fait, le jour où tu as une plateforme qui fait beaucoup d'éthique, elle va se faire manger par les autres plateformes. Sur ça, il y a un exemple qui est incroyable. C'est TikTok est arrivé. TikTok a capté un truc qui est vraiment tragique. C'est que, en fait, ça c'est une histoire tragique. C'est tu prends les algos de recommandation à la base. Les algos de recommandation old school, ils avaient ce truc très vieux jeu de dire que ce que toi, Rodolphe, et ce que moi, Jean-Loup, avions déclaré vouloir regarder,
C'est
c'était
vraiment ce qu'on
vraiment
voulait
quelque chose
regarder.
qui. Exactement. Donc, le fait que tu te sois abonné à Arte et à une chaîne de physique quantique et de thermodynamique, ça veut dire vraiment, c'est ce genre de vidéo qui va te faire craquer. Ils intégraient ça. C'est-à-dire que dans l'algo, dans tous les algos, LinkedIn, Twitter, etc., à la base, ils te montrent beaucoup de choses auxquelles tu t'es volontairement abonné, suivi, etc., etc. En fait, ce que TikTok a trouvé, c'est qu'en fait, ça, tu n'en as rien à braire, potentiellement. Entre ce que tu déclares aimer et ce qui va te faire rester sur la plateforme, c'est deux groupes de contenus qui potentiellement n'ont aucune intersection. C'est vraiment ce truc du sondage qui a été fait il y a 10 ans par Politico qui disait les Français, il y a 90% des Français qui adorent Arte, Arte 1% d'Audima. Ben voilà, c'est horrible, mais ça
Non,
dit un
parce
truc
qu'Arte
de
ça peut être
nous.
horrible aussi, donc
Ouais, bon, oui. Mais non, mais bah, je prends cet exemple-là parce que c'est dans l'imaginaire collectif, c'est le bon truc. Et si tu veux, TikTok a découvert ça, enfin a découvert ça. En tout cas, une des raisons du succès de TikTok, c'est qu'en fait, eux, ils en ont rien à battre. Et dans le fil For You, il n'y a que des trucs qui t'ont fait craquer et ils ont fait un fil exprès qui n'est pas le fil par défaut où il y a les gens que tu suis vraiment, qui s'appelle following ou abonnement en français. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé après ça? TikTok a fait ça.
Bah,
Qu'ont
ils
fait
ont
les
tous fait
autres?
pareil parce
Ben,
que
c'est
ça
ça qui marche.
fonctionnait sur TikTok. Mais ça veut quand même dire que l'algo te connaît mieux que ce que tu penses te connaître.
Alors,
Ou alors il connaît tes vraies failles et toi t'aimerais bien qu'il les exploite pas, quoi.
En fait, on en parle, ça rejoint un peu, ça rejoint quand même un peu ce que dit Kahneman, tu sais, le prix Nobel d'économie, enfin le prix Nobel.
Je savais pas
Ouais,
qu'il était
le
prix
prix.
Nobel, mais il a été prix
Ah,
Nobel pour quoi? Pour ce truc, le
le prix
système
dit
1-système-2?
Nobel.
Oui, je
Ouais,
sais, ouais,
système
c'est
1-système-2.
économie.
Ouais,
Mais
oui,
il est
voilà.
Nobel pour ça, pour ce truc-là?
Ouais.
Ah, je savais pas.
Ouais.
Donc système 1, système 2 pour ceux qui connaissent pas.
Ouais, système 1, système 2. Attends,
Alors
je vais vite.
je peux essayer de mémoire, je connais peut-être vite fait. C'est bah en fait quand on réfléchit à des questions longuement comme ça, on peut faire des choix qui sont cool, mais ça nous prend du temps. Et ça, c'est le système 2, c'est ça? Le système lent, c'est le système
Ah
2?
putain,
Bon, on
alors
s'en fout.
ça, j'avoue que
Donc
j'ai
y a un
un gros
système
problème.
lent mais qui demande beaucoup d'efforts. Et en fait, il y a un système rapide qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui est le fait que le cerveau fait de très bonnes approximations la plupart du temps. Et en fait,
Ouais,
tous les trucs que
carrément.
vous faites automatiquement, de ne pas avoir à réfléchir ou vous mettez. Et par exemple, j'arrive à faire un truc qui est assez fort, c'est que j'arrive à boire sans trop réfléchir. Et je me verse
Très
assez
fort.
rarement de l'eau à côté. J'arrive à
Ouais,
taper dans mes
très fort.
mains. Quand je sors de chez moi, je ferme les clés. Je ferme ma clé sans m'en rendre compte. Du coup, après, je me dis, est-ce que j'ai fermé la clé? Et du coup, je dois faire demi-tour pour vérifier trois fois parce que je suis un peu toqué. Et donc là, pour le coup, le truc qui peut me faire gagner du temps fonctionne assez pas bien. Et en fait, voilà, il y a plein de trucs que vous automatisez, que votre cerveau apprend à automatiser. Et heureusement, hein, parce que s'il fallait réfléchir à tout ce que vous faites tout le temps, y compris quand vous marchez ou quand vous faites des trucs comme ça serait un peu long. Et ça serait une vie un peu compliquée. Et n'empêche que ce truc qui fonctionne très bien la majorité du temps, c'est aussi la source de tous les biais, quoi. Les biais de
En
raisonnement,
fait,
c'est un truc qui fonctionne bien la majorité du temps et qui déconne dans les plus forts
et c'est
cas.
pour ça que moi, j'avoue qu'au début, je comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui appelaient pas ça les biais cognitifs et qui insistaient pour appeler ça plutôt des raccourcis de la pensée.
Ouais.
Et en fait, je comprends. C'est parce qu'en fait, ils ont raison. C'est-à-dire que comme tu viens de le dire, la plupart du temps, c'est des raccourcis de pensée qui sont extrêmement efficaces. Et ils ne deviennent des biais que dans le peu de cas où ils se trompent. Mais quand tu connais vraiment la manière dont ces raccourcis sont créés, tu peux les transformer en biais quasiment 100% du temps, en fait. Et juste pour les gens, système 1, système 2, même Kahneman, il a dit, c'est pas, on n'a pas genre un système 1, un système 2, c'est vraiment un spectre. C'est juste pour une manière de vulgariser que dans nos manières de raisonner et de réfléchir, il y a des raisonnements qui se font plutôt de manière automatique, et des raisonnements qui sont plutôt dans le truc où on raisonne. Un exemple assez classique, je sais pas si on te l'a déjà fait, mais si je te demande de répondre très vite à cette grande énigme très très difficile qui est, imagine, tu es dans une course, tu es à fond, tu dépasses le deuxième, tu es à quelle position?
Premier.
Eh ben non. Voilà.
Deuxième parce que je dépassais le deuxième. Je me suis fait avoir.
Ouais. Mais ça, pour le coup, là, c'est un cas classique. Et ce genre de truc. Et là c'est effectivement un raccourci de la pensée qui t'a fait associer deux machins bidules, tu dépasses deux.
Là,
Mais en fait, non.
en live en plus, en live.
Ah ouais, mais attends, je t'ai mis la pression et tout, j'ai bien joué le coup. Mais voilà.
Jean-Loup?
Ouais.
De quelle couleur ils sont tes écouteurs?
Blanc.
De quelle couleur sont les murs chez toi?
Blanc aussi, en théorie.
Ouais. Et le plafond?
Tout est blanc chez moi.
Ouais. Même ton autocuiseur, il est quelle couleur?
Tout est blanc. Ouais.
Et
Mais pourquoi tu me demandes
une
ça?
vache, ça boit quoi?
Du lait.
Ben
Ah putain,
non,
voilà. Oh putain.
ben
Ah putain, je sentais le piège venir. Je me disais, oh putain, ben voilà.
Et oui, il avait vu venir. Et oui, il avait vu venir. Ouais.
Ah putain, quel
Bon, là, j'étais un peu
enfer.
arnaqué quand même.
Ah
Alors,
là
c'est pas tout à fait le même délire.
là.
C'est une
Ok.
arnaque par association. C'est pas le même délire.
Ouais, mais c'est. Non, mais si, c'est le même délire dans le sens où
Donc, système 1,
c'est un.
système 2, c'est
Ouais.
intéressant à avoir ça. Et si vous voulez vous la péter, ces approximations du cerveau, on appelle ça des heuristiques. Et voilà, la majorité du temps, en vrai, elles sont utiles. Et puis, des fois, vous tombez dans le panneau.
Mais ouais. Et en gros, voilà, les algos vont. Ouais, l'exemple classique, c'est celui-là. C'est la balle et la batte, 110 $ et un beau piège. La batte coûte 100. Ouais, tu vois, c'est les exemples classiques, quoi. Mais clairement, il y a ce truc de profiter de ça. Et en fait, un algorithme qu'on dirait éthique aurait tendance à juste moins bien fonctionner. Donc on est un peu face à ce truc où si on n'a pas une sorte de régulation Ça, on ne peut pas avoir d'algo qui sont différents si on ne l'impose pas collectivement. Parce que ben, là, on voit bien comment ça se passe. Ça va dans le sens de plus d'efficacité économique. Alors, il
Yes.
y avait pas mal de commentaires, hein, mais on n'a
Ouais.
pas du tout.
On nous donne d'autres exemples. Il y a Louis qui
Ouais, ça
demandait,
c'est bon, mais
FL
avant,
aussi,
je.
bonne soirée à ceux qui nous quittent. Et il y a la question de si on allait donner, est-ce qu'on peut attribuer et tout?
Ah non, un truc que je voulais dire, c'est avant l'invention d'Internet, un bourgeois achetait rarement l'Humanité et un communiste le Figaro. En fait, ça c'est pour dire, et c'est vrai, que la polarisation a toujours existé, que faut pas croire qu'il y ait un temps où en fait il y avait une sorte de place du village où les gens de toute opinion échangeaient dans la paix et la bonne humeur. Par contre, il y a quand même quelques trucs qui sont différents. C'est que aujourd'hui, potentiellement, la polarisation, celle qui moi m'effraie le plus et celle dont on parle dans le livre, ça s'appelle affective polarization et en gros c'est, nous on l'a traduit polarisation émotionnelle
Ouais.
ou affective. En fait, c'est de dire le truc qui est dangereux, c'est pas à quel point la personne elle pense différemment de toi. Tu vois, tu peux te dire, moi il y a des gens qui ont des avis, par exemple. Je sais pas, ils ont des avis profonds sur la valeur de la biodiversité par rapport à la, tu vois, qui va être profondément différent des miens. Mais par contre, ce qui va générer des problèmes en termes de société, c'est si je hais ces gens. C'est à quel point je hais les gens qui pensent pas comme moi. Et en fait, c'est très sournois parce que tu peux haïr quelqu'un qui pense pas très différemment de toi, en fait. T'as des phénomènes où les gens, au sein du quasiment d'une même idéologie, se haïssent les uns les autres. Tu vois? Et ça, pour le coup, les réseaux sociaux ont tendance, en faisant ce truc de caricature et en mettant en avant la colère, aggravent ça. C'est pas la seule cause de ces phénomènes-là, mais c'est une cause aggravante et c'est une cause sur laquelle on pourrait jouer pour essayer d'apaiser les choses. Et après, pour ceux qui veulent. Le phénomène de comment la polarisation et comment la. Qu'est-ce qui t'arrive?
Il y a deux voix, on nous propose deux voix différentes dans le chat. Il y en a un qui dit alors que si tu détestes tout le monde, trois petits points. Et Casbion93 qui dit c'est pour ça qu'il ne faut jamais haïr les autres. Donc voilà, dans les deux cas, tu trouves une forme de neutralité, soit tu détestes personne, soit tu détestes tout le monde.
Oui, bah oui, c'est vrai que après moi je suis plutôt de la catégorie à détester, à essayer de détester personne. Mais tu peux, après ça c'est un avis, mais tu peux combattre le plus férocement possible certaines idées sans pour autant les personnaliser et détester la personne, quoi. Enfin, je pense que ça c'est un truc. Wait But Why, là, le blog que j'aime bien, il avait parlé et il parlait de ça. Il disait en fait. Faut pas forcément personnifier des idées, quoi. Tu peux, c'est pas forcément facile et je suis pas sûr de mon coup que ça marche tout le temps.
Attaquer les
Mais
arguments.
non. En tout cas, instinctivement, c'est ce que j'aurais tendance à faire, quoi.
Hate the game, not the players.
Alors attends. La polarisation, la lumière, on en parle.
C'est moins
Ça trop
grave, c'est
l'été,
moins
hein.
grave. Et y a une question que je me pose du coup, parce que plusieurs fois on a parlé de sujets environnementaux et des arguments avec qui on n'était pas d'accord ou de certaines personnes qui nous agaçaient un petit peu. Tu penses qu'il y aurait moins de polarisation autour de ces enjeux sans les réseaux sociaux, leurs algos de recommandation?
Moi, je pense que sans algo de recommandation ou avec des algos de recommandation différents, ce qui est un peu la même chose, je pense qu'il y a des, il y a des, il y a effectivement des prises de position qui auraient moins de reach. Mais si tu vas pas là, c'est comme, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu le mouvement anti-vax, par exemple? Pendant le Covid, sans les réseaux sociaux. Moi, je pense que oui. Je pense
Mais
qu'il y
pas à
aurait
cette
été.
ampleur-là, quoi.
C'est exactement ça. Mais il y aurait été. Et ça, c'est vraiment un travers dans lequel il ne faut pas tomber. Si on a tous ces phénomènes-là, c'est parce que la société est face à des problèmes, à des doutes, à plein de choses. Tu vois? Mais par contre, pour moi, c'est un phénomène qui va aggraver quelque chose qui va déjà mal. Et en fait, le fait de dire que ça peut aggraver, ça veut aussi dire, et c'est là où Tournesol essaie de bosser, c'est que si quelque chose aggrave, ça veut dire qu'il a aussi le pouvoir d'apaiser et d'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir des recommandations qui soient peut-être un petit peu différentes, ça peut minimiser l'ampleur des problèmes. Donc je pense que toute source de problème est aussi forcément une source de solution si tu arrives à la tweaker dans un sens différent.
L'ancêtre des réseaux sociaux, c'est
Ah,
le
alors.
PMU. Elle est pas mal celle-là aussi. Mais
De
avant le
quoi?
PMU, l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est le PMU.
Ouais.
Mais avant, si tu
Ouais.
débarquais au PMU et que tu cherchais quelqu'un d'autre qui croyait que la Terre était plate, c'était pas évident. Et maintenant, le PMU, il est tellement géant que tu peux trouver des gens qui sont
Non, mais
d'accord avec
attends,
toi sur
attends.
tout.
Les réseaux sociaux, c'est l'équivalent de donner un mégaphone à Michel après 10 Ricard et lui dire, vas-y, parle, tout le monde t'écoute. Tu fais, non, mais attends, ok, c'est le PMU, ben moi je préférais l'ancêtre. Alors là, il y a un très bon commentaire de Guillaume qui dit, les anti-progrès avaient peur que les poumons explosent en prenant le train. Alors, pour avoir lu, je crois que c'est Jarige qui en parle dans Technocritique, de ses peurs liées au train. Alors je sais plus si c'était les poumons qui explosent, mais c'était notamment ils avaient très peur des tunnels, les tunnels, le passage, le fait que le train passe dans les tunnels, ça faisait très peur. Alors j'arrive, il dit une chose déjà qui est intéressante, il dit bah, déjà ils n'avaient pas forcément tort d'avoir peur du train, c'est-à-dire que quand le train s'est mis en place, il y a quand même eu un nombre de morts par accident ferroviaire qui était vraiment non négligeable. Alors j'ai plus le chiffre de mémoire en tête, faudrait que quelqu'un retrouve, mais c'était de l'ordre de milliers, dizaines de milliers par an. Donc c'est beaucoup, mais il faudrait retrouver le truc de Jarige. Mais bon, tout ça pour dire, leur peur n'était pas non plus que irrationnelle. Il ne faut pas tourner en dérision parce que maintenant, nous, on juge leur peur avec nos standards à nous de TGV d'aujourd'hui. Mais c'est pas un super raisonnement. Et ensuite, il y a aussi le fait que. Je pense que là, ce dont on parle, c'est des choses qui sont déjà de plus en plus documentées, qui sont d'une ampleur phénoménale. On ne parle pas juste de gens qui prennent le train, on parle en gros de la stabilité ou de notre capacité collective à gérer les problèmes globaux aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'on y arriverait sans les algorithmes de recommandation. Je dis juste que les algorithmes de recommandation n'ont pas l'air de nous aider. Et donc, je pense que ça vaut le coup de se poser la question alors, on parle de deux concepts. Il y a la présomption de non-conformité. C'est-à-dire, tu peux aussi reprendre l'argument et dire, mais pourquoi on fait des contrôles pour les logiciels dans les avions? C'est quoi ce truc contre le progrès des avions? Il suffirait de dire ben, tout nouveau logiciel, tu le fous dans un avion et en avant. Pourquoi vous êtes contre le progrès des logiciels dans les avions? Et pourquoi il faut purée, mais des batteries de tests dans tous les sens pour être bien sûr que le truc pique pas quand il faut pas. Alors d'ailleurs, on n'y est pas forcément arrivé vu que je sais plus quel avion Boeing là, a tendance à piquer tout seul avec l'adaptation logicielle qu'ils ont fait passer. D'ailleurs, à grands coups de lobbying, ce qui apparemment a pas beaucoup marché.
Ouais, et ça fait
Ça n'a
Boeing.
pas été. Hein?
Maintenant,
Bah.
ils font Boeing.
Non, mais du coup, ça pose la question. Et donc, sur les algos de recommandation, on pourrait aussi avoir le même genre de choses et de demander, comme aux avionneurs, d'essayer au moins d'apporter des éléments de preuve que les nouveaux algos de recommandation aient pas des propriétés négatives, des propriétés émergentes négatives pour la société. Tu vois, ça c'est ça. C'est pas être anti-progrès que de dire. Potentiellement, si vous pouviez à chaque fois que vous avez un truc, pas le mettre en production et en test sur l'humanité, ça serait peut-être une bonne idée. Et c'est exactement le contraire qui s'est fait avec les successeurs des IA de recommandation, qui sont les IA génératives dont on entend parler un peu énormément depuis 2 ans, mais qui sont. On n'a pas réglé le problème des IA de recommandation qu'on a les IA génératives qui arrivent. Donc.
Mais je pense aussi, c'est parce que c'est pas toujours bien compris à quel point hein, ces IA de recommandation ont aujourd'hui un grand pouvoir et font déjà des grands dommages et ont un pouvoir de nuisance. Puis là, en plus, on a discuté de ce qui vient naturellement de leur fonctionnement, mais il y a aussi des personnes qui les manipulent volontairement. Ou des
Ah,
personnes qui
ouais.
essaient d'avoir du contrôle à travers ça. Et on pourrait parler de TikTok et de la Chine, et de la différence entre TikTok en dehors de la Chine et TikTok en Chine. Il y a plein de trucs intéressants dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de trucs.
Ah.
Et du coup, c'est aussi aujourd'hui des armes utilisées par certains contre les démocraties, quoi.
Ouais, alors, et là effectivement c'est l'autre angle qu'on traite aussi dans le livre, c'est t'as vraiment l'angle en tant que tel, les algos, même quand t'as des algos qui sont dits pas
Même dans un
partisans.
monde où tout le monde serait gentil, tu vois, les algos exploiteraient nos biais en fait et auraient déjà plein de conséquences désastreuses et tout le monde n'est pas gentil
Exactement.
quoi.
Et en plus, le monde n'est pas gentil. Juste si tu prends la logique capitaliste, qui est déjà une logique politique, c'est-à-dire en fait, si tu veux juste faire des sous, c'est déjà politique quelque part. Mais ce n'est pas partisan, tu vois, ce n'est pas un groupe, une idéologie qui prend et qui manipule. C'est vraiment, bah, c'est l'idéologie capitaliste, du coup, qui manipule dans le sens de faire plus de profit. Mais là, on a le deuxième effet qui se coule, qui est que ces algos de recommandation, bah, ont des failles. Et il est possible pour des acteurs, en gros, de s'introduire dans ces failles pour avoir l'issue et les conséquences qui les intéressent. Et c'est quoi l'exemple qui t'a le plus marqué? C'était TikTok, les deux TikTok différents? Parce qu'il y a
Ouais.
l'exemple de Black Lives Matter, moi j'aime bien aussi. J'en parle
Ouais, ça
encore.
aussi, ouais. Ouais, il est bien celui-là, tu peux l'expliquer.
Et bien, en fait, le... Ça, enfin, moi, ça me fait marrer parce que les papiers sont quand même. L'honnêteté scientifique des gens qui ont rédigé ces papiers est vraiment chouette. En gros, c'est des gens qui ont étudié la bataille, le débat qu'il y a eu autour de Black Lives Matter aux États-Unis. Et en fait, Black Lives Matter, pendant très longtemps, ça a été un sujet très consensuel. Donc, le fait que les policiers tuent et agressent beaucoup plus les populations afro-américaines que les autres et tout ça, ou en tout cas les choses en lien avec George Floyd, etc., etc. Ça a été très médiatisé, donc il y a eu toutes ces affaires-là. Et donc c'était très consensuel jusqu'à ce qu'il y ait un afro-américain qui commence à tuer des policiers blancs en représailles. Et à partir de là, il y a commencé à avoir une guerre, vraiment, où les gens disaient non, mais là, ça va trop loin, voilà, ça va trop loin. Et donc, tu avais les conservateurs qui disaient bah, ça va trop loin, en plus, c'est pas tant là, surreprésenté que ça. Ta, 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 ta. Bataille sur Twitter. Enfin, on l'imagine, vous voyez les batailles sur Twitter, vous imaginez une bataille sur Twitter, il y a deux camps. Et en fait, ils ont analysé un peu comment ces deux camps étaient répartis sur Twitter, etc. Et ils ont fait leur étude, et 3 ou 4 semaines après la sortie de l'étude, il y a une liste qui est révélée par Twitter de comptes qui appartiennent à l'IRA, l'Internet Research Agency. Et en fait, les chercheurs tombent sur la liste et s'aperçoivent qu'en fait, tous les hats, ils les connaissent. Ils les connaissent parce que ben, c'est des hats qu'ils ont vus et qui sont beaucoup intervenus dans la guerre de cadrage sur Black Lives Matter aux États-Unis, quoi. Et du coup, ils se demandent, oh là là, machin, bidule. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, ben, les acteurs venus de l'IRA, la Internet Research Agency, ben, on cherchait à polariser le débat, quoi. Donc, ça, en fait, vraiment, tous leurs tweets étaient plutôt aux extrêmes, mais des deux positions. Pas de la position que conservatrice ou pas que de la position que progressiste. Vraiment des deux positions. Et là où j'adore cet exemple, c'est que les chercheurs, dans leur papier, ils disent, bon, mais nous, on est une équipe de chercheurs, on est plutôt progressiste. Et ils disent, en fait, les tweets qui étaient du camp progressiste, et qui était fait par des comptes ben, manipulés par la Russie ou par l'IRA, correspondait tellement à notre cadre de pensée qu'on a vérifié deux fois plus, qu'on a double check, que c'était vraiment la méthodo de Twitter pour analyser que c'était bien des trolls. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était des trolls. Et en fait, c'est là où tu dis, ben, ça a réussi. Parce que justement, ce genre d'attaque, elle réussit. Si tu vois même plus la différence, en fait.
Donc ils essayent même pas d'influencer, de faire gagner un camp, ils veulent juste le chaos, quoi. Ils veulent polariser, ils veulent déchirer la société, quoi.
Bah, pas la société, cette société.
Ouais, c'est dans ces interactions-là, mais
Ouais.
on peut supposer qu'ils le font sur plein d'autres questions, en fait. Qu'à chaque fois, ce qu'ils veulent
Oui,
faire, c'est...
oui, oui, oui. En fait, il veut déstabiliser des entités qu'il considère des entités ennemies.
Ouais.
Mais toi, c'est vraiment la guerre informationnelle ou la guerre cognitive. Et effectivement, les réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation ont des failles qui permettent ce genre d'attaque. Et cette attaque, il faut te dire qu'elle était faite à l'époque où il n'y avait pas d'IA générative qui pouvait générer,
Automatiser tout ça.
automatiser tout ça. Alors maintenant, je pense que voilà, tu vois, on saura dans quelques mois, années. Je pense qu'il y a, il y a, il y a en ce moment même autour des grands conflits et des grands sujets géopolitiques, je pense qu'il y a des attaques dans tous les sens. Et même l'armée française reconnaît que c'est vraiment un sujet de préoccupation majeure aujourd'hui dans la manière dont on envisage la guerre.
Et dans des pouvoirs autoritaires, ils peuvent être moins sensibles à ce genre d'attaque parce qu'ils censurent beaucoup plus. Donc il n'y a pas cet espace d'expression qui est polarisé, quoi.
Bah voilà, c'est aussi la faiblesse. Il y a qu'à voir le temps qu'il a fallu à la France et à l'Europe, pardon, pour interdire RT. Le temps qu'il faut à l'Europe et aux États-Unis pour essayer d'interdire ou de réguler un truc comme TikTok. C'est tu vois. Et effectivement, la Chine a eu aucun problème pour dire défense d'entrée à peu près tout. Et d'ailleurs, ce qui fait que le web chinois est fondamentalement différent du nôtre. Parce qu'en fait, dès le départ, ils ont fait ce qu'on a appelé la grande muraille numérique, je crois.
Ils ont bridé Internet.
Ouais, alors alors ce qui est marrant, oh là, j'ai ah pardon, je l'ai eu après, oh là là, ah celle-là, hein. Non mais sur Google par exemple, Guillaume parle de Google qui s'est retiré de Chine. Alors Google au tout départ avait un truc en mode on n'ira pas servir le gouvernement chinois, etc. Donc sur une position très éthique. Et ensuite, ils ont eu un projet d'aller en Chine et donc de faire un moteur de recherche parce que business is business, tu vois. S'ils arrivent à faire un truc qui leur ouvre tout le marché chinois, ils vont pas dire non. Et en fait, il y a eu une levée de boucliers en interne des employés de Google qui fait que finalement, sous la pression quelque part de ses employés, Google a refusé ce projet qui s'appelait, je sais plus comment s'appelait le projet, mais c'est assez récent, hein, c'est un truc de 2017-2018. Ouais, vous pouvez regarder Google en Chine, le projet il s'appelait. C'est sur Wikipédia, hein, vous le trouverez.
Et Guillaume Eiffer nous donne une petite contrepétrie, mais tu es moins équipé pour ça, je crois, Jean-Luc.
Ouais, alors c'est contre
C'est pas la plus élégante en plus. L'empereur est arrivé
l'empereur.
à pied par la Chine.
Ouais, je vais même pas essayer, tu vois. Je vais même pas
Ouais,
essayer. C'est pas.
c'est
Je
trop
vais plutôt regarder ce que
vulgaire,
dit. Ah,
je vais pas essayer
je
non
vais
plus.
plutôt lire. Je vais plutôt lire le commentaire d'Aïdan et de la part d'entreprise elle-même pour vendre de la pub sur la. Ah oui, c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ampleur du truc. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas de transport ferroviaire de quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes, quoi. On parle de la plus grosse expérimentation psychologique à l'échelle de l'humanité. Et on le fait sans l'ombre d'une précaution. Et les gens qui appellent à un peu de précaution et de dire c'est un sujet. Ils vont être traités par ce bon vieux Yann LeCun d'obscurantiste. Cash, obscurantiste. Alors Yann LeCun, pour ceux qui n'ont pas la chance de le connaître, du coup c'est quelqu'un qui a eu la médaille Turing, donc qui est toujours présenté comme ça, donc médaille Turing, et qui est aussi le directeur de recherche en intelligence artificielle du groupe Meta, donc Facebook. Et qui est appelé dans les médias pour donner son avis sur les conséquences de l'intelligence artificielle sur nos sociétés. Ce qui paraît incroyable. Et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps, mais vous allez sur Mediapart, Yann Lequin et son livre. En fait, il y a eu... Ah, voilà, je l'ai là. Donc, je mets le lien dans... Ah oui, vous n'avez peut-être pas Mediapart, mais vous aurez le début déjà. En fait, Rad, tu le vois, toi, le lien Tu dois avoir Mediapart. Va voir et dis-moi s'il n'y a pas un truc où tu te dis ouais, chelou quand même.
J'ai pas Mediapart sous la main là tout de suite.
Ah voilà, donc voilà, Guillaume il dit aux sources de l'intelligence artificielle, l'ouvrage Quand la machine apprend de Yann LeCun permet de décoder certains mystères de l'intelligence artificielle en s'intéressant au fonctionnement des neurones du cerveau humain. Nanani nanana. Et en fait, tu es là, tu fais OK. Mais qui c'est Yann Lequin? Et Yann Lequin, donc voilà, tu...
Ah, il n'est pas du tout présenté dans le...
Ah non, jamais. Jamais. Au milieu de l'article, au tout milieu. Alors, tu apprends qu'il est Turing dans le premier tiers du truc, donc tu sais Turing. Et finalement, on va te dire, attends... qu'il est chercheur à Meta et je crois que c'est après. Voilà. Et après dans l'article, on t'apprend quand même qu'il est chercheur associé à Meta. Et on te dit juste ça. On te dit pas alors potentiellement ça donne un conflit d'intérêts sur la manière dont il va parler de l'intelligence artificielle. Le produit de Meta, c'est des algos de recommandation et c'est l'IA. Et là, on te demande et on te donne sur un média plutôt en plus qui devrait être conscient et qui devrait quand même être très putain, comment on dit très qui devrait avoir beaucoup de précautions face à tu vois des grands groupes, aux big tech, etc. Et là, ils y vont direct et ils disent juste, oui, bon, il est chercheur à Meta, mais on va quand même écouter son avis parce que c'est hyper intéressant, son livre sur l'intelligence artificielle. Je dis pas que son livre n'est pas intéressant. Je dis juste que tu peux pas. C'est comme si tu dis, ah, cette étude faite par Marlboro sur les conséquences sur les poumons du tabac, elle est hyper... Sa méthodo, génial. Franchement, super méthodo. Tu fais, attends.
Voilà.
Donc bon, ça c'est un truc qui est quand même... En fait, dans la première partie, je pense qu'on essaie d'insister avec les sur le fait que par rapport à ces sujets-là, par rapport aux acteurs que ce soit étatiques ou que ce soit des acteurs industriels, on a une innocence et un laisser-faire politique et une non-conscience des enjeux qui est dramatique.
Ouais. Il y a deux petites questions là qui viennent t'embêter. Guillaume Effer qui nous dit les algos ont quand même permis certains printemps arabes. Révolution des jasmins, révolution d'un. Ouais. Et puis il y a Tiglo qui dit deux questions. Avez-vous évalué et quantifié les apports positifs des algos? Donc ça, tu pourras essayer d'y répondre. Et avez-vous des infos sur les conséquences de la consommation de séries de courtes vidéos sur l'engagement des étudiants élèves dans le travail scolaire? Là, c'est un peu plus éloigné de ce que vous avez fait, je pense.
Ouais, c'est un peu plus éloigné, mais moi, ça, je sais pas. Alors, première question, les printemps arabes et les conséquences positives, etc., etc. Bien sûr que les algos de recommandation et plus largement les réseaux sociaux ont eu des conséquences positives. Mais en fait, la question, elle n'est pas vraiment là. Bien, encore heureux que n'importe quelle technologie qu'on ait choisi d'adopter massivement ait des conséquences positives. Je veux dire, en tant qu'humanité, on n'est pas non plus complètement teubé.
Ouais, mais c'est peut-être aussi parce que on y viendra. Mais après, dans la troisième partie, vous proposez un peu des solutions, quoi.
Ouais. Troisième partie. Ouais.
Et en fait, votre discours, c'est pas de dire il faut tout mettre à la poubelle. Donc.
Non, mais en plus. Faut pas mettre tout à la poubelle. Et donc, en fait, pour moi, il y a deux éléments de réponse à cet angle. C'est, le premier, c'est de se dire, le fait qu'il y ait des choses qui aient des aspects positifs ne veut pas dire que c'est globalement positif. Parce qu'en gros, on le sait, pour chaque nouvelle techno, les promoteurs de ces technologies ou d'une technologie vont toujours mettre en avant le côté positif de cette technologie. Donc, par exemple, même pour des trucs abusés comme des armes, on va te dire oui, mais c'est des armes principalement de défense. Hein, donc, c'est des missiles, mais ils vont nous servir à nous défendre. Donc, ça va. Et on a eu la même chose avec plein de choses. Alors, on est pour ou on est contre, mais par exemple, Elon Musk, il est en train de faire une de ses boîtes, c'est Neuralink. Je sais pas si tu as suivi. Dans Neuralink, hein, c'est des puces qu'on met dans le cerveau. Si vous voulez aller voir, il y a une vidéo de 4 minutes qui est bluffante où, en gros, ils ont mis une puce dans la tête d'un macaque. Okay? Et en fait, cette puce permet de voir l'activité cérébrale du macaque. Et en fait, tu détectes l'activité cérébrale du macaque pendant qu'il joue à un jeu, genre c'est un jeu à l'ancienne, la Pong. Il joue à Pong. Et en fait, il joue avec un joystick à Pong. Et en fait, petit à petit, on arrive à savoir où c'est que va bouger la main avant que la main bouge, parce qu'en fait, on a l'activité cérébrale du macaque. Okay? Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'après, ils arrêtent, ils laissent le joystick, mais le joystick, il est plus, le curseur n'est plus bougé par le joystick, mais est bougé par la prévision que le modèle va faire de l'activité cérébrale. C'est-à-dire, en fait, tu lis l'activité cérébrale, et parce que tu l'as vu jouer pendant assez longtemps, tu es capable, juste en voyant l'activité cérébrale, de savoir où c'est que le macaque va bouger la main. Mais en fait, ton joystick, il est débranché. Et l'étape d'après, qu'il montre dans la vidéo, le macaque, il n'a même plus de joystick. Il joue à Pong littéralement par la pensée, si tu veux. Donc là, tu es là, tu fais, ouais, cette techno, c'est abusé, c'est une dystopie, etc., etc. D'après toi, comment Musk essaye de vendre cette techno?
La santé, les gens qui peuvent
Ben,
pas, qui peuvent
bien
plus bouger
sûr.
du tout.
Non, mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'en fait, avec ces puces-là, tu vas pouvoir bouger un bras artificiel pour les gens qui ont été amputés d'un bras. Et bien sûr, c'est génial. C'est magnifique comme techno.
Ouais, Casgrain
Mais
dit
du coup.
Neuralink, on a aussi une vidéo du feedback du premier humain, du coup, ce premier humain qui a eu
Ah!
un
Ouais,
impact.
mais j'ai vu, c'est la première puce, elle a été en janvier, là. J'ai pas
Et
suivi, mais je sais que
Il a
c'était en
réussi à mettre
janvier.
une branlée sur Mario Kart à toute sa famille. Voilà, bam.
C'est
Et
vrai? Ouais,
apparemment, il y a
j'ai
mieux,
peut-être.
il y a Neuralink Climatech à Grenoble. Je connais pas assez, ni l'un ni l'autre.
Ah, ouais. Mais en fait, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'en fait, bien sûr que les technos ont un aspect positif. Et la question, c'est la question qu'on doit se poser, c'est premièrement, est-ce que le bilan il est plutôt positif ou plutôt négatif? Et surtout, parce qu'une fois que c'est lancé, ça sert à rien. On va pas dire on retire les réseaux sociaux. Enfin, comment tu veux retirer les réseaux sociaux aujourd'hui? Je veux dire, c'est impossible. Donc la question, elle est maintenant, vu qu'il y a une partie du bilan qui est dramatique et qui génère des choses qui sont indéfendables, et on sait, et on a un faisceau de preuves de plus en plus lourd, de dire que ça participe à des conséquences sociétales dramatiques, que ce soit en termes de polarisation, de génération ou d'aggravation de guerre civile, de génocide, d'incapacité à gérer un truc comme le changement climatique. Enfin, c'est des trucs énormes. Ben, la réflexion, c'est juste de dire comment on maximise les conséquences positives, tu vois, vu qu'on sait que ça a une influence. On ne peut pas se contenter de dire oui, en 2011, ça a généré une révolution qui a été positive, un temps donné d'ailleurs, parce que les régimes qui ont pris place dans tous ces pays, si tu fais le bilan en 2024, on est loin d'un truc qui est aujourd'hui satisfaisant. Donc
Yes.
voilà, en tout cas,
Et donc là, on a pas mal
c'est de
parlé de
ça
la
dont on parle.
première partie.
Ouais.
Et après, vous avez deux autres parties.
Mais après, on a deux autres parties. Ouais. Alors, déjà, on n'en a pas parlé, mais à la fin de la première partie, je pense qu'on essaie de dire ce truc de se rendre compte à quel point on est tous interdépendants. Et donc, en fait, il y a cette métaphore que moi j'aime beaucoup, de dire ce qu'un raccourci de la pensée ou un biais cognitif est à un individu. Les algorithmes de recommandation le sont à l'échelle de l'humanité. Dans le sens où les algos de recommandation à l'échelle de l'humanité, c'est ce qui oriente et ce qui donne de l'importance à certaines informations plutôt qu'à d'autres. De la même manière que mes raccourcis de la pensée, ils vont donner plus d'importance. Ben, par exemple, là, tu vois, je ne sais pas pourquoi, dans le logiciel, là, j'ai mon audio source qui est affiché. Et à chaque fois que je parle, tu sais, ça fait comme ça, là. En gros, c'est le seul truc qui bouge. Eh ben, j'ai un biais, un raccourci de la pensée ou un raccourci cognitif qui fait que ce truc-là, il n'arrête pas de me perturber parce que c'est le seul truc que j'ai qui bouge en face. Et ça, c'est un raccourci de la pensée, mais qui est bien calculé, hein. C'est qu'en fait, il donne de l'attention au truc qui change. Bah, c'est là où l'information est la plus importante.
C'est quand
Mais
on
tout
était
ça pour
encore
dire,
une proie dans la nature et qu'on devait surveiller.
effectivement, le danger vient plus de là où ça bouge que de là où ça bouge pas. Ouais. Ça paraît assez évident. Et donc, du coup, le truc de la fin de la première partie, c'est de se rendre compte que si les algos de recommandation sont les biais cognitifs de l'humanité, eh bien, on a des biais de cognitifs tout pété. Genre, c'est vraiment littéralement. Et ça, je crois que c'est toi qui en avais parlé de ça.
Ouais.
Tu te rends. Je sais pas si t'as
Oui,
vu,
je me
mais
rappelle
ça a
très
été.
bien.
Et ça a été inclus, hein. C'est qu'en
Ah,
gros.
je crois que j'ai pas
T'as pas
encore
lu?
lu ce passage-là. Ouais.
Ouais.
J'en
Eh
suis
bien,
encore au début.
en fait, c'est vraiment ça. Si tu penses que les algos de recommandation sont des biais cognitifs, ben, si notre individu global, société humaine, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est non seulement il prête pas attention au loup qu'il y a derrière lui, donc il prête pas assez attention au changement climatique, mais en plus, il se coupe les bras pour être bien sûr de ne pas pouvoir se défendre par rapport aux loups qui vont lui sauter dessus. Et donc nous,
Ouais.
ben, en l'occurrence, là, on est en train de détruire potentiellement la stabilité, je pense, de l'infrastructure politique, géopolitique mondiale qui pourrait nous permettre de gérer dans le maximum de paix et d'humeur la moins massacrante possible le changement climatique, en l'occurrence.
Ouais, et moi il y a ce truc ouais, que j'aime bien comme idée, c'est que je pense qu'il y a des biais de ces algos qui même rendent service à personne, tu vois, vraiment qui sont nuisibles aux personnes qui tombent dans certaines idéologies. Et tu vois, il n'y a même pas toujours un méchant en fait, il y a vraiment des trucs juste qui se retournent contre nous-mêmes.
Comme quoi, par exemple?
Bah, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent s'entraîner, s'auto-entraîner dans des croyances qui les coupent de leur famille et qui nuisent à leur famille et à eux, tu vois.
Ah,
Et
ben
il n'y a pas
alors.
forcément quelqu'un qui tire à bénéfice de cette croyance, tu peux t'auto-convaincre de bêtises. Alors, il peut y avoir des gens, des charlatans qui essaient de leur vendre des choses, mais pas nécessairement. Tu peux avoir des. Je sais pas quoi dire comme. Je sais pas quoi donner comme autre exemple.
Non, mais le. Est-ce que ça ne rejoint pas l'exemple qu'on a pris par exemple, de la dégradation de la santé mentale?
Si.
En fait, ça.
Si.
Mais
Si,
en fait,
si, si.
ça.
Ces trucs de santé mentale et de pouvoir t'enfermer dans des buts, de l'adolescente que vous prenez et de dépression, etc., il y a personne qui a rien gagné à ce qu'elle se suicide. C'est ni la plateforme, ni ses parents, ni la société, ni les gens qui postaient, je sais pas, des poèmes tristes ou. Personne ne
Non.
gagne à ça, en fait. C'est.
Alors, j'argumenterais que la plateforme, elle gagne, dans le sens où elle a gagné du temps, où la
Mais si elle
jeune
avait
fille a passé du
survécu
temps
pendant
sur la
plus
plateforme.
longtemps en étant malheureuse, la plateforme aurait gagné encore plus de temps d'attention.
Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai.
Non,
Ah
bon,
oui, clairement.
c'est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est y a des individus mal intentionnés qui ont des intérêts à attirer, mais il y a aussi des biais juste de ces plateformes qui. Ouais, où vraiment personne n'y gagne, quoi.
Ouais, alors, tu sais que c'est pour ça que moi je suis allé sur le sujet de l'économie de l'attention plus que le climat à la base, enfin pas à la base, après. C'est aussi parce que je me suis dit, mais ça c'était mon raisonnement d'il y a 5-6 ans. C'était qu'en fait, le climat, il y a ce truc où, dans nos changements de comportement individuel, on a un peu l'impression, alors je pense qu'on pourrait le remettre en question et tout, mais tu peux avoir l'impression de te sacrifier. Par exemple, je sais que toi aussi, on prend plus l'avion. Si l'avion était moins polluant, bah, quelque part, il y a des voyages qu'on ferait encore.
Tu irais voir la
En tout cas,
biodiversité en Amazonie, toi, Jean.
ouais, alors ça, chacun ses voyages, hein. Mais ouais, je ferais des voyages pour voir la biodiversité de la bouffe japonaise, tu vois. Chacun ses voyages. Donc, du coup, il y a un peu ce truc-là. Et en fait, avec l'économie de l'attention et les algorithmes, il y a un peu ce truc qui est quand même hyper fort, et je pense qu'il y a un truc où je pense que c'est là où il y a une marge de manœuvre qui doit être prise, c'est le fait qu'en fait, à court terme, même les individus ont intérêt très très vite à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que l'intérêt individuel à remettre en question son usage des plateformes et son lien avec tout ça est encore plus rapide que. En fait, tu as des récompenses pour toi individuellement plus rapidement encore que les récompenses d'avoir un mode de vie sobre, qui sont aussi des récompenses. Hein, et je pense qu'il y a vraiment des arguments à avoir un mode de vie sobre. Individuellement, je parle. Mais je pense que pour le lien avec les plateformes, c'est encore plus rapide et ton retour sur investissement de tes changements de comportement sont encore plus rapides. Parce que notamment, je pense que quand tu remets en question ton usage des plateformes, il y a un côté apaisement mental que tu retrouves très très vite.
Tu penses à quoi comme
Alors,
retour sur investissement? Ouais, tu retrouves
en
donc.
fait, retour sur investissement, je parle juste de l'épanouissement, le bonheur, la satisfaction que ça t'apporte de changer un comportement. Si tu changes ton comportement, par exemple, pour arrêter de prendre l'avion ou pour être plus sobre dans tes comportements, bah, ton retour sur investissement individuel, il va être assez long. Ça va être potentiellement de baisser ton point mort de ce que tu as besoin d'argent tous les mois. Et donc, du coup, t'es plus libre de faire des choix différents. Ou alors, une vie qui est plus lente et où tu te sens plus apaisé, etc. etc. Tu peux trouver des trucs sur la sobriété, mais c'est quand même pas facile. Alors que quand tu, par exemple, coupes des réseaux sociaux ou que tu essaies d'avoir un rapport plus distant avec les réseaux sociaux, tu as un apaisement que tu vois direct. Et notamment, tu regagnes du temps. C'est-à-dire que. On prend ce schéma, je ne sais pas si tu l'as vu dans le livre, mais le temps passé à consommer du média aux États-Unis. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en gros, on en est à 8 heures par jour. 8 heures par jour à consommer du contenu médiatique. Dans ces 8 heures par jour, il n'y a pas le script qu'on écrit, il compte pas dans les 8 heures. Okay, ça, c'est
Ouais,
vraiment à consommer du
à
contenu
consommer.
médiatique. Ouais, c'est-à-dire images, vidéos, sons, etc., etc. Articles avec des images, tout ça. Bon, après, les méthodos, elles sont un peu compliquées parce que des fois, tu peux faire deux choses à la fois. Tu peux, par exemple, si moi, je suis là en train de parler sur Twitch et qu'en même temps, je regarde mes WhatsApp, ça fait du temps qu'on double. Mais 8 heures par jour, tu vois. Eh bien, rien que remettre en question ce temps-là, ben, c'est un gain direct de. Tu regagnes du temps de vie que sinon. Qui sinon étaient happés par des plateformes. Tu vois, et alors, on peut dire, moi je passe 8 heures et je suis hyper volontaire. En vrai, tous autant qu'on est, on est conscient qu'il y a quand même quelques bouts de ce temps-là qu'on aurait pu passer et qu'on sait aurait été plus constructif et même plus apaisant et plus reposant si on ne les avait pas passés sur des plateformes numériques. Et donc voilà. Et c'est en ce sens où il y a un retour sur investissement pour moi.
Mais après, même sur la sobriété, tu pourrais défendre qu'il y a un retour sur investissement. Tu pourrais te dire que si tu apprends à te contenter de peu, tu es plus heureux et tu as besoin de moins travailler.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a
Ouais,
un retour sur
ok.
investissement. Je pense qu'il est plus long à toucher du doigt.
Et c'est
En tout cas,
en fait, c'est
ouais.
un retour sur un non-investissement. C'est un retour sur l'effort.
Oui, alors, effectivement, je pense que dans les deux cas, mon terme retour sur investissement n'est pas bon. Mais c'est un retour sur
Sur l'effort, ça te
énergie à
demande.
changer le comportement.
Ouais. Donc un effort, ça te demande un effort de décrocher
Comment,
de
ouais,
Twitter et
comment,
compagnie.
ouais, comment.
Ok. On en est où là? On a réagi un peu au chat. Faudrait parler un peu des solutions quand même. On
Ouais,
reste max une
carrément.
heure, max 23 h. Je suis un peu éclaté quand même.
Ouais,
Max
t'es.
23.
Juste. Gagner du temps, pourquoi? Pour mater un stream Twitch. Twitch. Ouais, mais ça, c'est un bon stream, c'est pas pareil. Alors, bah, on peut faire la.
Et après, il y a
Ah,
aussi une remarque
on
de
peut
te
avoir très.
retrouver sur TikTok et à la fin de sa journée, et que ça peut être apaisant et tout. En fait, le truc, je pense, c'est de réussir à le faire en conscience, quoi. Enfin, que ça soit un choix voulu d'y aller pour ce que tu... Et pas de le faire par automatisme et pas de rester dessus sous l'influence d'émotions pas incroyables et tout, quoi.
Ouais.
C'est...
Alors, attends, je suis flou. Non, mais en fait, le principe de la plateforme, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est, tu sais, ça a été conceptualisé. C'est comme les casinos. En fait, les casinos, ils sont conçus pour ne jamais avoir d'angle et que tu vois jamais l'heure, que tu vois jamais le jour, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen pour justement que tu n'arrives jamais à cette conscientisation. Qui fasse que tu te dis, ah purée, je suis en train de jouer ma baraque, c'est pas forcément la bonne idée, du coup je vais arrêter. Le but du casino, c'est que tu te fasses pas cette réflexion. Le but des réseaux sociaux, c'est que tu sois pas en conscience. Parce qu'en fait, si tu es en conscience, tu passes moins de temps. Donc en fait, tu luttes, c'est un paradoxe, mais de vouloir être sur Twitter en conscience, c'est quelque part ne pas être sur Twitter quasiment. Parce qu'en fait, le but de Twitter, c'est que tu ne le sois pas. Il y a quelqu'un qui demande le rappel du nom du livre. Donc,
Ouais, je l'ai mis en source,
ah,
j'ai
yes.
déjà répondu. Et maintenant, je
Ah,
l'ai
yes,
épinglé,
yes,
j'aurais
yes.
pu
Ah oui,
l'épingler
je n'ai pas vu. Ouais.
dès le début.
Yes. Et du coup, je voulais juste aussi. Il y a quelqu'un qui dit Internet est-il un outil qui va aider l'humanité à lutter contre le réchauffement climatique? Mais justement, pour l'instant, non.
Bah,
Bah, non, pas que. Oui, non, mais t'as raison. Non,
Non,
mais.
mais
Ah.
déjà, enfin, ça permet d'avoir accès à certaines informations quand même. Alors, on pourrait se poser la
Ouais.
question des réseaux sociaux. En vrai, quelle a été l'utilité des réseaux sociaux? Ah, vous pouvez dire le réveilleur si vous êtes des faux culs, mais en face, il y avait quand même un paquet de mauvais trucs. Et si j'avais pas été pas là et que ces mauvais trucs n'étaient pas là non plus, on serait peut-être mieux aujourd'hui. Mais Internet en général,
C'est ça.
quand vous voyez le prix, et essayez de commander un rapport du GIEC en papier. Et puis vous serez content de pouvoir y accéder en PDF, quoi. Donc déjà rien que pour cet accès à cette information, et puis même Internet permet aussi la recherche qui permet de comprendre tout ça et d'avoir accès aux données. Donc ouais, j'ai l'impression que sans Internet, la collaboration internationale qui permet de comprendre déjà qu'il y a un changement climatique et d'essayer de lutter un peu contre, elle serait plus difficile, quoi.
Mais là, après, là, on fait des calculs qui sont très très complexes parce que tu peux dire que sans Internet, la coopération internationale qui nous permet d'être encore plus efficace pour produire, consommer et
Ah oui.
rejeter du CO2 dans l'atmosphère, elle serait moins efficace aussi. Donc,
Ouais, c'est
je
vrai.
sais pas, en fait, la grande question, là, elle est là. La grande question, elle est comment faire peser la balance dans le sens qu'on trouve pertinent pour le climat? C'est ça la question. Parce qu'après, c'est vrai que c'est très très dur de dire bah, dans les 20 dernières années, bah, Internet, effectivement, il a participé au problème comme à la solution. Par contre, c'est vrai que moi, je fais pas mal la différence entre Internet et le web des débuts, et il y a beaucoup de théoriciens qui la font, hein, et le web 2.0 et les réseaux sociaux. C'est vraiment, c'est à partir. En fait, le web des débuts, le web de Wikipédia, en gros. Hein, donc le web des liens, etc., était un espace de liberté. C'est le web des blogs aussi. Tu vois. Et après, en fait, les plateformes ont fait un truc, c'est ils ont reproduit les fameuses enclosures du 16e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont privatisé le web. Et c'est pour ça que, par exemple, sur Instagram, vous ne pouvez pas poster de liens, en fait. Et vous ne pouvez pas poster de lien parce qu'en fait, le but d'Instagram, c'est que vous restiez sur Instagram. Alors que le but du web et de Wikipédia à la base, c'était de pouvoir surfer d'endroit libre en endroit libre. Donc, je pense qu'il y a une différence à faire entre le web et les plateformes et les réseaux sociaux. Et donc, une grosse partie de ce qu'on dit après, en deuxième partie, c'est de se poser la question, ok, maintenant on a dit, ok, ça participe à des choses qui sont négatives, on sait que ça a cette influence, comment on pourrait faire pour que ça aille autre part, dans une autre direction? Et là, je trouve que, en fait, bah, c'est tout le projet Tournesol, et il y a une réflexion qui est abyssale, qui est de se dire, ok, aujourd'hui, les algos de recommandation, ok, ils recommandent de la merde, certes, mais ils ont des métriques très très claires. C'est-à-dire, en fait, la plateforme, elle sait très bien ce que c'est un bon algo et un mauvais algo. Sauf que si tu lui retires cette métrique-là, tu mets quelle métrique à la place? Moi, je suis Jean-Loup et je vais te dire, nous, on va être d'accord, beaucoup plus de trucs sur le climat. On va être d'accord, on va être pour des vidéos qui sont pour les changements de comportement et pour des implémentations technologiques différentes. Mais tu as des gens qui vont dire, non, on va faire que des changements de comportement ou que des changements technologiques. Et d'autres gens, encore pire, qui vont dire, non, mais nous, on pense que le climat, c'est pas un problème. Tatati, tatata. Comment tu fais?
Constructivisme moral.
Et voilà. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Ouais, alors, c'est vrai que la philosophie qu'il y a derrière la plateforme Tournesol, c'est ça. C'est en fait de dire, personne n'est légitime pour dire ce qu'il faudrait recommander. La chose et le principe le moins insatisfaisant, c'est que cet intérêt général, quelque part, et ces vidéos qui seraient massivement recommandées parce que jugées comme d'intérêt général, que ça soit décidé collectivement. Donc en fait, il n'y a pas de vidéo d'intérêt général en soi, mais par contre, il y a des bonnes manières de construire la sélection d'une vidéo d'intérêt général. Et c'est le principe de Tournesol.
C'est une approche démocratique de la morale, en fait.
Oui, le constructivisme moral, moi j'ai l'impression que c'est une approche démocratique de la morale. C'est juste de dire. Après, c'est pas forcément démocratique parce qu'en fait, ce que dit le constructivisme moral, j'ai l'impression. Alors là, je parle sous réserve de tous les gens qui sont bien meilleurs que moi en constructivisme moral. Mais c'est de dire, tu t'intéresses au processus de construction de la morale et tu dis pas qu'il y a une bonne morale, tu dis qu'il y a un bon processus de construction de la morale. Et là, effectivement, moi, je vais pas. Peut-être que je fais partie des démocrates constructivistes moraux. Je pense que un bon processus pour construire une morale ou un bon processus pour décider ce que doit être une vidéo d'intérêt général, c'est un processus qui inclut un bout de démocratie. C'est un processus où tout le monde a son mot à dire sur les vidéos qui devraient être massivement recommandées.
Ok, et donc si je veux regarder des vidéos d'intérêt général, je vais voir Tournesol. Et si je veux regarder des vidéos juste pour m'amuser, je vais sur YouTube, quoi. Parce que YouTube, c'est ce qui m'amuse.
Ouais, ça c'est vrai. Et alors, oui, tu peux faire ça, mais regarde, si tout le monde va sur Tournesol, hop, vous allez sur Tournesol et vous allez sur le deuxième icône là, et il y a les recommandations.
Attends, je vais ouvrir, ça sera plus simple.
Et
Attends, faut que je fasse tournesol app parce que j'ai que des tournesols pour l'instant. Je suis pas connecté d'ailleurs. Voilà, vous saurez rien de moi. Recommandation. Ah, il y a quand
ouais,
même du lait, du phylloxime. On connaît tous ces gens.
Bah, et c'est là où tu vois. Alors, moi, pour le coup, sur les vidéos là, j'ai vu les.
Ah, il y a Arte quand même.
Je les ai quasiment toutes vues là.
Ah, il y a Simon Clark.
Ouais, il y est. Il y
Argumentarium.
est.
Ah, il y a Blast. Choc
Ouais.
sceptique. Ça va, c'est. Franchement, regarde les premiers, ils sont. Bon, c'est un peu la même sphère, mais au moins, c'est pas un seul créateur déjà.
Non, 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 non. Mais c'est. Ah, et tu peux mettre les vidéos des 2 derniers mois. Ouais. Tu vois, pour avoir le truc plus large, tu changes les filtres. Ou tu mets
Une
l'année.
année.
Ouais, bam!
Ce qui est bien sur une année, c'est qu'on commence à avoir des vidéos de moi. Parce que sur le dernier mois, il n'y en avait pas, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de vidéos
Ah, pardon, c'est un peu aussi de ma faute. Mais oui, il y a une vidéo de toi qui fait la tronche d'ailleurs. Pas content.
moi. Ouais, bah c'est moi chez Philoxime.
Ah, il y a des vidéos de moi aussi.
La classe.
Merci, merci Tournesol. Mais ouais, après, voilà, ce que tu vois là, c'est quand même qu'il y a aussi il y a un biais. Tu vois, mais il y a un biais de sélection des gens qui sont sur la plateforme, tu vois. Mais ça, pour le côté recherche de la plateforme, c'est pas forcément très grave dans le sens où. Le fait qu'il y a un échantillon qui soit, pour le coup, pas représentatif des Français, ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas les gens qui font dans Tournesol, c'est-à-dire pas moi du tout, mais ça n'empêche pas le projet de se poser les questions et d'essayer de trouver des solutions à tous les problèmes que ce genre de plateforme pose. Non, parce que moi j'avoue que je l'avais pas du, j'avais, je l'ai beaucoup moins que les et tous les autres. C'est la conscience de à quel point tout système de recommandation ou tout système d'ailleurs, quand il atteint une certaine échelle, va être détourné de la manière dont on l'a pensé pour être manipulé en fait. Tu vois, et en fait, dans la manière dont ils pensent Tournesol, il y a beaucoup cette attention qu'il y a à comment tu fais des systèmes de recommandation qui soient robustes aux attaques. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as un système de recommandation qui est diffusé, il y aura des attaques. Et donc, bah, le but du jeu, c'est de créer aussi des systèmes de recommandation qui soient robustes et qui tiennent le coup face à des attaques qui ne manqueront pas d'arriver. Alors du coup, c'est quoi exactement ton sol? Ouais, je l'ai pas dit,
Ouais,
pardon. En
très
plus, j'ai même pas
rapidement.
expliqué.
En plus,
Ouais.
tu sais le dire rapidement, toi.
Je sais pas si je le dirais. Ah, mais en gros, c'est une plateforme qui fait de la recherche tout en proposant un objet concret. C'est de la recherche action en fait. Un objet concret qui est quelles sont les vidéos qui sont le plus d'intérêt général suivant. Les gens qui ont voté sur la plateforme. Et en fait, le vote, il se passe par comparaison. Donc en fait, moi, je vais, par exemple, je vais comparer le live de ce soir à une vidéo d'une autre personne. Donc je vais dire, ah, le live aujourd'hui, il était fantastique parce que c'est un sujet hyper important. Et cette vidéo devrait être massivement recommandée. Et ce que fait l'algorithme de Tournesol, c'est qu'il compile les votes de tous les gens. Et les votes, c'est en fait, c'est des comparaisons de vidéos. Et en fait, en compilant ces comparaisons, il extrait un score qui est le score de recommandabilité Tournesol. Donc là, sur la vidéo que tu montrais, la première vidéo là ben, qui est la vidéo de Philoxime sur les milliardaires compatibles avec la démocratie, eh ben, elle a un score de 63. Donc c'est de la, c'est la, de la, de la, de la, de la gouvernance algorithmique participative ou collaborative.
Ouais, c'est quand même meilleure vidéo de l'année, 63.
Ouais. Mais je pense que, en fait, moi, ça m'étonne pas, tu vois. Et c'est hyper logique que ce soit celle-là. Parce qu'en fait, alors, outre le fait qu'elle soit bien et que ce soit très bien fait, etc., etc., tu vois. Sur la thématique, c'est vraiment le truc. Moi, c'est l'exemple que je prends à chaque fois quand on parle de trouver du consensus. Parce que les gens ont toujours peur de la fameuse fabrique du consensus, tu vois, qu'on fabriquerait artificiellement un consensus pour faire arriver la société et pour stabiliser la société. Mais en fait, ce que veut faire un algorithme comme ça, c'est pas fabriquer du consensus, c'est extraire un consensus qui existe déjà. Et en fait, les consensus qui existent déjà, il y en a plein. Et notamment, le fait que les milliardaires soient un échec politique et que les milliardaires devraient être plus taxés, c'est un consensus dans la population.
Ah, il a
Il y a très peu de gens.
fait pas
Ouais.
mal de vues avec celle-là.
Et donc, du coup, je trouve ça tout à fait logique que la plateforme Tournesol ait voté cette vidéo comme la plus recommandable et qu'il faudrait recommander au plus de monde parce qu'en fait, cette vidéo, elle n'est pas du tout clivante.
Tu dis ça parce que t'es jaloux. Je pense même qu'il y a des milliardaires qui seraient d'accord avec nous, en fait.
Ah, alors, t'as pas besoin de penser. Warren Buffett l'a dit. Warren Buffett a déjà dit, d'ailleurs, il a déjà dit un truc complètement horrible. Il a dit, je crois qu'il a dit un truc genre, la lutte des classes, elle existe et c'est nous qui l'avons gagnée. Là, tu fais, oh, déjà, t'es salaud. Et ensuite, il a un truc où il dit, on est un peu bête, les super milliardaires, parce qu'on est en train de casser le système sur lequel est basée notre richesse. Tu vois? Et je pense que, bah ouais. Donc je pense qu'il y a des milliardaires, même des milliardaires seraient potentiellement d'accord avec cette question. Par contre, tu as à peu près. Et moi, je sais pas si tu as ces exemples, toi, dans ton entourage.
De
Moi, dans mon
milliardaires?
entourage.
Non, pas trop.
Non, des gens qui te disent si on régulait la prise de l'avion, c'est-à-dire qu'en gros. Si il y avait un système, tu vois, qui disait, voilà, chacun a droit à un voyage d'avion long en avion, long courrier tous les 10 ans. Je sais, enfin, toi, on s'en fout. On prend un truc. Les gens diraient, ah, moi, je voterais pour une mesure comme ça. Mais par contre, tant qu'il n'y a pas cette mesure, fais-moi confiance pour prendre l'avion toutes les semaines. Moi, moi. Tu vois, et je pense que
Je
les
reconnais.
milliardaires, ça serait c'est le même genre sur ça. Il y en a très peu qui vont dire, ah, je vais payer 80% d'impôts. Par contre, je soupçonne qu'il y en ait certains, en tout cas une part moins négligeable, qui diraient, ouais, s'il y a un truc qui me prend 80% d'impôts, why not?
Hop, au-dessus d'un certain niveau.
Le fameux. Au-dessus de 200 000, on prend tout.
Et on donne tout au réveillé.
Oh,
Au
pardon,
plus
pardon.
démuni, au plus démuni. Donc voilà, tournesol.
Ouais. Et donc, ouais, et donc dans la deuxième partie, en fait, on parle de tous les trucs, notamment le. Enfin, moi, un des trucs qui me marque le plus dans Tournesol et dans la première partie, c'est qu'en fait, tu disais tout à l'heure, les algos, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Mais en fait, les algos, ils connaissent une seule partie de nous-mêmes, qui est justement la partie plutôt système 1. En fait, ils ont une très très bonne connaissance. Alors, je ne sais plus si c'est système 1, système 2, mais vous l'avez compris, le système très court terme, très très rapide. En fait, les algos sont basés sur des données où nos avis court terme sont surreprésentés, en fait. Et ils connaissent très peu ce qui nous fait profondément peut-être vibrer, en tout cas si je parle de plateformes comme Twitter, etc., etc. Et du coup, Tournesol, le but, c'est de faire justement l'inverse. Et la question qu'on se pose, c'est comment on arrive, tu vois, à donner plus la parole à la personnalité ou en tout cas à la partie très long terme et très raisonnée de chacun de nous. Ça ne veut pas dire que l'émotion, elle est nulle, etc., etc. Ça veut juste dire que dans le système actuel, il y a trop de part qui est donnée et trop de pouvoir qui est donné aux émotions vs la raison. Et que dans le système de Tournesol, on se pose la question comment redonner plus de pouvoir à nos avis raisonnés. Et ça passe notamment par le fait que par exemple, tu peux avoir plusieurs critères, tu vois. Par exemple, on pourrait faire un calcul, parce qu'il y a le critère principal dans le Tournesol, si vous y allez, vous avez le critère avec un Tournesol. Il faudrait recommander ou pas la vidéo, et après, vous avez 9 critères. Et les 9 critères, juste, tu vois, pour la petite histoire, c'est, tac, 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 il y a fiable
Fiable
et
et non
non trompeur,
trompeur,
ouais.
clair et
Clair et
pédagogique,
pédagogique, vas-y.
important et actionnable, accessible aux non spécialistes, divertissant et relaxant. J'ai rarement une bonne note là-dessus. Stimulant et suscitant la réflexion. Diversité et inclusion, encourage de meilleures habitudes et résistant au retour négatif.
Voilà.
Pourquoi le nom de
Et
Tournesol?
hein?
Pourquoi le nom de Tournesol? C'est une question de Jeremy
Alors,
Vira.
ça c'est une vraie question. Alors, il faut pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était parce que Taïwan. Parce qu'il y a eu la révolution des tournesols à Taïwan en 2014. La révolution, c'est la révolution des tournesols. Et en fait, ça aurait été assez. Enfin, ça paraîtrait évident que c'est pour ça, mais c'est pas pour ça. Et je crois que c'est juste parce que tournesol, il se tourne. Enfin, ça se tourne vers le soleil. Et du coup, un algo qui se tournerait vers l'intérêt général. Je crois. Alors là, à vérifier s'il y a Aidan dans le chat pour dire si je dis des bêtises ou pas, ça m'aiderait parce que je crois que c'est ça. En tout cas, je suis certain que c'est pas ce que je croyais qui était la révolution du tournesol. Et voilà. Mais alors pour en revenir aux critères. Notamment, on pourrait faire, tu vois, un truc disant si quelqu'un a passé du temps à voter tous les critères les uns après les autres, ça veut dire que clairement, il y a moins de chances qu'il soit juste dans un réflexe émotionnel. De la même manière, si quelqu'un, tu vois, passe du temps, tu vois, sur le curseur, on pourrait tout à fait loguer ça. Alors on le fait pas, mais c'est des réflexions, hein, qui dira, est-ce que ça serait pertinent de le faire? De loguer à quel point la personne, elle hésite et elle, tu vois, elle drague le curseur. pour dire bah, quelqu'un qui a vraiment dragué et qui n'a pas juste cliqué et qui est parti, est-ce que ça, c'est une trace de réflexion et de raisonnement ou pas? C'est encore une fois, franchement, un tournesol, c'est vraiment une plateforme de recherche pour l'instant et c'est des questions qu'on se pose bah, tout le temps. Il y en a plein et en gros, dans la deuxième partie, on parle beaucoup de ça. Et notamment sur ce truc-là de comment on fait pour donner du pouvoir ou comment on fait pour donner plus de pouvoir à la partie raisonnée de nous tous. Parce que, d'ailleurs, tu sais que c'est un argument du directeur de TikTok Monde, enfin Monde sauf la Chine, quoi. Enfin TikTok d'ailleurs, parce que TikTok en Chine s'appelle Douyin. Et lui, il a cet argument qui est fou, il dit non mais TikTok c'est déjà de la démocratie en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous swipez, vous votez.
Ouais, ok. Mais c'est la
Mais
démocratie
c'est une
de système
démocratie.
1, quoi.
Ouais, alors c'est une démocratie de système. Hein. En gros,
C'est une
c'est.
démocratie de heuristique.
Bon, en fait, c'est le contraire de la sagesse des foules. En gros, les plateformes numériques aujourd'hui, c'est des plateformes qui mettent en avant l'instinct des foules. L'instinct des foules numériques. Et le but de Tournesol, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas créer des systèmes qui, justement, extraient de la sagesse, des foules numériques, bah, plutôt de la sagesse.
C'est marrant ça, parce que c'est ouais, au lieu d'avoir la sagesse des foules, on a la bêtise des foules, quoi. C'est en fait, on a fait une intelligence artificielle pour exploiter la bêtise naturelle. C'est incroyable.
Ouais, c'est hyper fort. Mais c'est parce que c'est
Attends,
là.
je vais me la noter, je l'aime bien celle-là.
Ouais, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est en appuyant sur ce genre de bouton émotionnel qu'on a tous, c'est en les détournant de leur bon usage classique qu'on arrive à extraire le plus d'attention.
Et juste un tournesol, ça suit même pas le soleil. Voilà.
Ouais! Je sais, alors ça, il va falloir le dire à toute l'équipe. Donc si dans quelques semaines, quelques mois, t'as la plateforme qui change de nom,
Ah
tu
non, bah
seras...
non, bah non, bah non, bah vous avez plus le choix maintenant. Maintenant,
Ah, on n'a plus le
vous
choix,
devez
c'est
vivre
sûr.
toute votre vie avec ça.
Ah, c'est sûr. Ouais, et donc, il y a quelqu'un qui te demande, ça suit pas le soleil?
Alors,
Là, je pense que t'en as étonné un. Hein. Ouais.
de ce que j'ai compris et de ce que je viens de relire vite fait, en fait, il y a une hormone, au moment où la plante croît, il y a une hormone qui va dépendre d'où vient la lumière. Et sauf que une fois que le tournesol arrive à maturité, ben, il est figé. Et donc, non, je crois que les tournesols vont tous être tournés en direction du soleil levant. Mais vous voyez, ils ne suivent pas, ils ne se tournent pas au fil de la journée. Si j'ai bien compris. D'ailleurs, c'est peut-être même pas soleil levant, ça doit être direction du soleil max, du coup. Faudrait regarder. En tout cas, ils changent pas de direction une fois qu'ils sont grands. Si j'ai bien compris.
Ah, d'accord,
Mais
il
c'est vrai que
s'oriente
par
en fonction
mais c'est
de...
vrai que par rapport à une autre fleur, ils vont quand même avoir une orientation. Ils seront jamais plein
C'est
dedans,
ça.
mais c'est juste qu'ils n'ont pas le suivi. C'est juste que ça fait une
Ouais.
asymétrie et la fleur est penchée en une direction.
Alors que clairement, moi, dans mon esprit, avant que tu m'expliques ça, ben, la semaine dernière,
Bah ouais, mais c'est
c'est un
parce qu'on me
truc
l'a expliqué
qui
la
disait...
semaine dernière. C'est tout récent, donc ça se trouve c'est pas vrai ce que je raconte.
Ouais,
Mais
je...
pourquoi mon tournesol ne tourne pas? Le tournesol ne change plus d'orientation quand il arrive à maturité. L'impression qu'il tourne vers le soleil est ainsi due à l'hormone de croissance qui ne bouge plus à la maturité de la fleur.
Ah, mais ça veut dire que
Direction du soleil
ah,
levant.
ok, mais ça veut dire que quand il est en phase de croissance, il a ce truc-là où il tourne.
Mais est-ce qu'il suit ou est-ce que c'est juste, tu vois, le bourgeon
Ah,
il est
c'est pour ça.
droit et il s'incline de plus en plus dans la bonne direction?
En tout cas, Tournesol est condamné à s'appeler Tournesol maintenant, je pense. Et je trouve que c'est un nom sympa, moi j'aime bien. J'aime bien, en plus, ils ont tous des
Ouais,
photos là,
mais
ils sont dans des champs de tournesol. Et en plus, il
c'est
y a
ton
ce
amour de
truc
la
de...
biodiversité, ça, c'est ton amour
Et
des
en plus...
fleurs.
Et en plus, il y a la connexion avec la révolution des tournesols en 2014 à Taïwan que je trouve vraiment chouette du coup. Parce que c'est clairement une inspiration de la plateforme et même de juste en termes de démocratie numérique, c'est un truc dont on parle pas mal dans le livre aussi. Hein. Tu vois ce que. Parce que Tournesol, c'est un truc qui est quand même assez. Qui est vraiment sur les algos de recommandation, mais tu peux aller encore plus loin dans le raisonnement et dans ce que dans ce que tu fais faire ou à des algorithmes. Notamment ce truc de dire la démocratie algorithmique, où au lieu d'avoir un représentant qui est un député qui représente pas du tout ton avis, parce qu'une fois que tu as voté pour lui, de toute manière, déjà, c'est pas sûr que ce soit ton député que pour qui t'es voté qui soit élu. Et en plus, même quand c'est ton député qui est. Il a fallu que tu choisisses un parti qui ait une approximation assez imparfaite de tes positionnements politiques. Et en plus, une fois que le groupe est élu, les consignes de groupe font que potentiellement ton député te représente, mais pas du tout. Et donc, du coup, bah, la question, elle est de dire, est-ce que un système où on voterait plus souvent et en fait où certains votes serait fait par des représentants algorithmiques, ce serait pas un système où on serait mieux représenté. Il y a une vidéo qui est très connue de Lé, enfin, qui est très connue de Lé, ouais, moi, que j'avais beaucoup aimé et que je montre à mes élèves et je l'ai montré la semaine dernière. Et en fait, Lé a une tête de panda parce
Inversé.
qu'il venait d'aller au ski.
Attends,
Panda inversé, voilà.
c'est laquelle
Alors attends,
Tu te souviens du nom de la vidéo?
c'est la vidéo qui s'appelle. Démocratie algorithmique, je crois. Représentant algorithmique, attends.
Alors juste pour ceux qui n'ont pas le concept, peut-être tu peux expliquer vite fait ce qu'est un représentant
Ouais.
algorithmique pendant que je montre à quoi ressemble un
Ouais.
panda inversé.
Tu l'as?
Ouais, je vais la trouver, t'inquiète.
Elle s'appelle la gouvernance collaborative via des représentants.
Yes.
Le préféré de la recherche.
Il y a des... Ouais, je sais très bien pourquoi tu rigoles. Il y a des gens dans le chat qui font le genre de jeu de mots que tu affectionnes particulièrement.
Ah non, c'est même pas vu.
Ah! Ah! Ah, si,
Lé est
si.
beaucoup mentionné, mais il est pas là. Ok, c'est très bon.
Ouais,
Non, je
ça
rigole
fait le
parce que j'ai
délire.
ouvert la vidéo et c'est vrai que
Ah ouais.
il est un peu grillé sur le bronzage, quoi.
Ah, il est grillé sur le bronzage. Ah, il venait de faire une bonne session, là. Ouais, et en fait, le principe. En fait. C'est un papier qui est vraiment hyper intéressant. Bah, d'ailleurs, si vous voulez voir le papier, il est en source de cette vidéo de Lé, d'ailleurs. Et la vidéo de Lé, elle explique très très bien. En fait, c'est une association qui doit distribuer de la nourriture, en fait, à plein de groupes alors, défavorisés. Il y a des maisons de retraite qui n'ont pas assez de sous pour manger, des foyers de mères isolées, etc. etc. Et en fait, ils doivent décider qui c'est qui va recevoir les dons dans un temps donné, vu que bah, les biens de consommation vont arriver à péremption assez vite. Et donc, du coup, c'est vraiment c'est de la philosophie morale avec une deadline. Et ce n'est pas comme les dilemmes du tramway où tu peux taper le carton pendant 150 ans en disant ah, est-ce qu'il vaudrait mieux écraser, pas écraser, qu'est-ce que tu fais, et moi, qu'est-ce que je fais, etc. En fait, là, tu dois décider, quoi. Et en fait, c'est ça le truc qui est difficile, c'est quand tu dois décider avec l'avis de tout le monde dans un temps limité, c'est hyper dur. Et donc, ce qu'a étudié cette équipe de chercheurs, c'est vu que tu ne peux pas demander l'avis de tout le monde, c'est-à-dire les gens qui vont réceptionner la nourriture, les gens qui sont impliqués dans l'association, les bénévoles, etc., etc., tu ne peux pas faire ça. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de voir s'ils ne pouvaient pas reproduire les algorithmes moraux de tous ces gens-là. C'est-à-dire, en fait, s'ils ne pouvaient pas dire, bah, Rodolphe, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne à chaque fois aux gens qui sont le plus près, parmi les 5 personnes qui en ont pas eu à la dernière distribution. Tu vois, ça pourrait être un algorithme de distribution. Et moi, je vais dire, ben, j'en donne tout le temps aux gens qui sont les plus démunis, quoi qu'il arrive. Et en fait, chacun va avoir son algorithme. D'ailleurs, pour vous rendre compte que vous avez un algorithme, vous pouvez aller voir sur le site qui s'appelle The Moral Machine. Moral Machine. Moralmachine.net. Ouais, moralmachine.net. En fait, hop, sur ce site, si vous allez sur Judge, vous allez être face à des dilemmes moraux et vous allez pouvoir choisir vous-même qui c'est que vous allez écraser. Et en fait, au bout de 13 scénarios, on va vous extraire un peu quels sont vos motifs moraux. Ça ne veut pas dire que ça correspond complètement, mais ça veut dire qu'au bout de 13, on peut commencer à détecter, bah, vous préférez écraser les animaux que les humains, etc., etc. Et en fait, ils ont fait ça, les chercheurs, et en
On
fait,
va s'arrêter
c'est un
là.
succès. Hein?
Je dis sur les choix moraux, on va s'arrêter là. On va commencer à me juger. Le premier, il est facile, mais
Ah oui.
je vais pas assurer jusqu'au bout.
Mais en fait, voilà. Et tu peux cliquer au hasard et tu vois, ça donne un résultat. Mais en fait,
Ouais.
la question est là. Elle est. Après, une fois que tu as ça, c'est comme si l'algorithme qui est issu de ces choix-là va faire des choix à ta place si toi, tu n'es pas sollicitable dans le temps imparti. Et toi, tu vas avoir la main, de la même manière que tu votes tous les 5 ans, toi, tu vas avoir la main rigoureusement sur ton représentant algorithmique. En disant, ah non, mais là, j'aurais pas fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'en fait, là, la règle morale, elle n'est pas bonne, etc. etc. Et en fait, alors il y a plein de gens qui disent, ah ouais, mais c'est abusé, le représentant algorithmique, il peut voter n'importe quoi. Et là, on retombe sur le syllogisme de la solution parfaite et de rappeler aux gens d'où on part. On part d'une démocratie représentative où ton député vote absolument n'importe quoi. Donc moi, je dis déjà, si j'avais un représentant algorithmique qui votait ce que je voterais une fois sur deux, ça serait déjà un step-up énorme. Mais ça a plein de dangers, etc., etc. Tu vois, c'est pas, personne n'est prêt à faire ça. C'est juste que, effectivement, c'est une voie et c'est une réflexion qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit. Et en gros, c'est sur la partie 2, on parle de ce genre de choses-là.
Et je pourrais dire à mon représentant algorithmique de ne pas voter sur les sujets que je connais pas.
Par exemple, et tu pourrais même dire, et ça on en parle dans Tournesol. Dans Tournesol, on parle de deux choses, la délégation d'activité et la délégation d'expertise. La délégation d'activité, c'est par exemple, moi j'ai un pote avec qui je suis tout le temps d'accord et il est tout le temps sur Internet.
C'est pas moi. On n'est pas
Voilà.
toujours d'accord.
Exactement. Donc c'est pas ça. Et donc du coup, je pourrais dire, ben lui, je lui délègue les votes parce que je sais qu'en gros, voilà, je suis toujours d'accord avec lui, donc je lui fais une procuration. Et après, il y a les délégations d'expertise. Donc là, j'ai un pote, il est quand même plutôt affûté sur le climat. Je parle de Loïc. Hein.
Ouais, je sais,
Et
ouais. C'est pas moi non plus.
Et bref, tu vois, et tu délègues ça parce que tu dis sur ce sujet-là, cette personne-là, elle est plus experte que moi. Tu vois. Et alors là, tu as des trucs, des questionnements complètement énormes qui est, par exemple, faut faire attention au biais de l'aura. Parce que tu vas avoir des
La
gens
pauvre, elle a rien
qui vont.
demandé.
Hein?
Elle a rien demandé, Laura. Au biais de Laura. Ouais, bref, pardon. Donc, le biais de
Au
Laura.
biais, alors, on va renommer le biais du charisme.
Ouais.
Et parce que, en fait, il y a des gens qui vont donner de l'expertise à des gens, non pas parce qu'ils sont experts, mais parce qu'en fait, ils ont un énorme charisme. Tu vois, ils parlent bien, avec des mots très compliqués, etc., etc. Tu vois, ils n'hésitent pas quand ils parlent, on a l'impression que c'est une poésie scientifique vivante.
Ils arrivent à te
Et tu
sortir
vois,
des. La France
à
est le pays
des.
qui se réchauffe le plus vite au monde. Comme ça.
Exactement, avec une assurance déconcertante
Et bim.
et eux vont générer en fait des délégations d'expertise très très fortes. Et donc ça pose des questions de comment tu construis une délégation d'expertise la plus robuste possible. Alors une des pistes parmi tant d'autres, c'est d'avoir des délégations d'expertise. En fait, si tu as par exemple un expert qui est validé par 1 million de personnes qui sont elles-mêmes validées d'expertise de personnes, c'est louche. Alors que si tu as quelqu'un qui est par exemple validé que par 15 personnes, mais qui elles-mêmes ont des délégations d'expertise, ça veut dire que sur un sujet, il y a plus d'experts qui pointent vers un expert. Donc il y a peut-être, c'est à prendre en considération dans le fait de savoir si c'est vraiment un expert ou pas. Mais
Donc
c'est
tu regardes
encore une fois,
les
ouais.
liens de
Même
délégation
tu regardes.
entre individus pour estimer l'expertise.
C'est ça. C'est ça. Et tu peux même regarder la profondeur des liens. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux dire s'il y a plein de gens plutôt experts qui pointent vers plein de gens plus experts qui eux-mêmes pointent vers. Tu vois, en bout de chaîne, tu as plus de chances d'avoir un expert. Quelqu'un expert dans le sens qui connaît bien ce sujet en particulier-là. Et par contre, cet expert-là devrait avoir aucun droit de vote différentiel pour des questions, par exemple, morales. Je crois que dans le livre, on prend l'exemple.
Basilique de Rocco, je sais pas si tu vois.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Non, mais c'est.
Pardon.
93, il dit dans le futur, notre algorithme représentatif de nous sera une simulation parfaite de nous et l'IA du futur qui dominera le monde mettra mon algorithme dans un enfer parce que je n'ai pas contribué à l'ascension de l'IA. C'est un argument pour dire qu'il faut. Bref, c'est des trucs de philosophe, ça, mais.
Oh, et alors ouais, Louis Pouzin par contre il dit la démocratie liquide et voilà, la démocratie liquide c'est ça. La démocratie liquide c'est justement cette démocratie où il y a des délégations d'expertise et d'activité un peu dans tous les sens en fait. Mais par contre c'est des questions qui sont hyper ouvertes et c'est pour ça que en permanence dans le livre et je sais que dans le Discord on le dit c'est le plus de philosophes et de gens de tous les domaines on a à Tournesol, le mieux c'est parce qu'il y a une sorte de nécessaire interdisciplinarité du projet qui est quand même assez énorme. Et donc on a besoin de tout ça. Alors, tu vois, Louis Pouzin dit il faudrait 10 heures par semaine pour chaque citoyen pour s'occuper de ses votes ou de ses délégations de vote. Ben, en fait, ça c'est la grande question, mais en fait, le but du jeu, ça serait que, bah, déjà, de base, une démocratie, elle nécessite un peu de temps de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, une démocratie, pour qu'elle fonctionne vraiment bien, il faut que tout le monde s'éduque, s'informe. Et en fait, la démocratie qui est basée juste sur le vote tous les 5 ans, c'est pas hyper fonctionnel parce qu'en fait, ça ne prend pas compte du fait que pour bien voter, faut aussi avoir eu, pour qu'un vote soit informé, il faut qu'il y ait aussi eu un débat et des échanges informationnels tout au long des 5 ans. Après, je pense que non, il n'y a pas le but du jeu, c'est pas que ça prenne 10 heures. Enfin, il y a aussi un côté où il faut être réaliste. La question, c'est par exemple sur certains types de décisions. Par exemple, prenons la décision de recommandation, par exemple. Et on peut s'inspirer du truc de la voiture aussi. C'est quand tu vois qu'au bout de 13 jugements, 13 dilemmes, l'algo est capable de savoir un petit peu tes grandes tendances morales, je pense que tu pourrais très bien avoir des algos qui connaissent nos grandes tendances politiques ou nos grandes tendances idéologiques sur des vidéos à recommander assez vite. C'est-à-dire que moi, je suis assez persuadé. Alors, ce n'est pas le cas pour l'instant. Hein. L'algo Tournesol ne fait pas des prédictions sur les vidéos que je vais trouver bonnes si moi-même, je ne les ai pas comparées. Mais je pense que mathématiquement, si je juge de nombreuses paires de vidéos, je pense qu'assez vite, un algo va savoir, sans que j'y passe des heures par semaine, quelle vidéo je vais trouver bonne avec un taux de prédiction assez bon, quoi.
Bah en fait,
En tout cas.
l'algo de Tournesol, il pourrait le faire s'il a d'autres votes, mais s'il a aucun vote, c'est pas facile pour lui quand même. Il voit pas
Oui, car.
l'algo, mais s'il a quelques votes, il pourrait dire par rapport aux autres votes ce que
Oui,
toi tu penses
ouais,
quand même.
c'est ça. Parce que, en fait, ton profil de vote. D'ailleurs, c'est comme ça que marchent les algos de recommandation de YouTube.
Ouais. Mais finalement, le fait que les algorithmes de recommandation fonctionnent assez bien, c'est un bon argument pour des représentants algorithmiques.
De quoi, pardon?
Le fait que les
Je disais un
algorithmes de
commentaire.
recommandation fonctionnent plutôt bien, c'est un bon argument pour des représentants algorithmiques.
Clairement.
Ouais.
Ah, le
Et
fait.
tous ces trucs qu'on avait lus à un moment que tu vois, l'algo de YouTube te connaissait mieux que ton conjoint ou je sais pas quoi au bout de 20 interactions ou whatever, c'est un bon argument pour ça aussi.
Ouais.
C'est en fait, il faut
Alors, moi,
assez peu d'informations pour avoir de bonnes approximations de ce que tu as pensé d'un truc.
Combien?
C'est
Et
un
alors,
peu
ça.
vexant, mais
Alors,
il y a des
et alors,
éléments qui
ça,
permettent
mais
de le
c'est
montrer quand même.
vexant. Mais ça, c'est vexant. Moi, quand je l'ai dit, je l'ai dit encore aujourd'hui à des élèves, à super-héros, là. Et c'est vexant. Parce que, et je pense qu'il y a une grosse partie de pas mal de choses, de pas mal de réactions épidermiques sur les algos, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc, ils disent quelque chose de nous qui est quand même pas hyper valorisant. Ça dit quelque chose de nous, on est quand même assez prédictible, on est quand même assez anticipable, etc., etc. Donc ça nous enlève un peu de cette croyance que on est complètement incroyable et unique. Moi, je pense qu'on est complètement incroyable et unique, mais je pense par contre que dire ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses qui sont complètement anticipables.
Et après, ouais, faudrait les ajuster au fur et à mesure que tu évolues, il faudrait les ajuster à échéance régulière.
Oui, alors,
Parce qu'il y a des chances
effectivement,
quand même
c'est.
que, il y a des chances quand même que ton toi d'il y a 20 ans, ça soit pas tout à fait les mêmes
Complément.
alignements qu'aujourd'hui, quoi. Donc,
Complément. Ouais. Et ça, c'est un truc qui. Tu vois, ce genre de système ne peut marcher que si on a la main. Et même, tu peux aussi dire que si tu t'occupes pas de modifier, de prendre en compte des changements, etc., tu vois, ton algorithme, ou que tu prends pas la peine de vérifier ce qu'a voté l'algorithme te représentant, eh bien, en fait, on débranche ton algorithme. C'est-à-dire, en
Ouais.
fait, on dit, ben, en fait, toi, tu n'as pas fait l'effort qui fait que c'est assez sûr que ce représentant algorithmique te représente bien. Tu t'es pas impliqué citoyennement, en fait. Donc, en fait, ben, ton vote, il est plus comptabilisé parce qu'on est plus sûr que ça te représente bien.
Et il y a Tiglo qui dit, je trouve que le nœud du problème est plutôt d'amener un nombre suffisant de personnes à avoir assez d'informations validées scientifiquement sur les enjeux de la question posée que d'établir un système de vote plus juste. Ben non, moi je suis pas trop d'accord. En fait, moi la limite que je vois à ça, c'est que je parle pas d'un nombre un sujet de ah, pardon, je parle pas d'un nombre infini de sujets, mais j'y passe infiniment du temps, quoi. Et je peux pas faire ça sur tous les sujets. Alors
Je suis d'accord.
que mes valeurs morales sont assez claires, au moins pour moi. Et donc, si j'ai
Exactement.
un algorithme qui peut
Voilà.
s'occuper de faire ce que je fais sur les autres sujets et faire les choix à ma place avec les valeurs morales, bah, j'ai pas besoin de m'intéresser à tout le sujet, ce qui m'est impossible. Moi, je suis convaincu que le combat de Jean-Louis Edelé sur les algorithmes de recommandation est hyper important, y compris sur l'environnement. Bah, j'y mets pas beaucoup d'efforts dans ce fight-là, parce qu'il y a que 24 heures dans une journée. Et j'ai d'autres collègues qui s'intéressent à d'autres enjeux qui sont tout aussi importants et j'ai pas ce temps-là. Et je leur fais confiance sur les infos et je pourrais leur déléguer mes votes. Hein. Donc voilà, ça serait plutôt ça, cette logique. Et je pense que c'est un peu illusoire de croire que tout le monde peut avoir toutes les informations
Ouais,
sur tous les
c'est
sujets
sûr.
pour faire le bon choix. Et
Et
même si on y consacre 8 heures par jour, on n'y sera pas, quoi.
ça, tu sais quoi, c'est un truc, moi, que je vois de plus en plus, en tout cas, même dans les gens qui ont un esprit scientifique aiguisé, un esprit critique aiguisé, il y a cette illusion qu'en fait, on pourrait se faire un avis éclairé sur tout et sans se
Ouais.
rendre compte que la démocratie et nos systèmes sont basés sur un moment, tu vas faire confiance en des épistémologies sur lesquelles tu n'as pas la main.
Ouais.
Tu fais confiance dans un processus de connaissance et de diffusion de l'information, mais tu es obligé à un moment de faire confiance. En fait, ces systèmes-là ne peuvent pas marcher parce qu'en fait, si tu doutes de tout et de toute la production de connaissances, mais en fait, tu fais pas tourner la société complexe comme elle est, parce qu'en fait, tu peux pas refaire tout ça toi-même. Rien que sur un thème sur le GIEC, tu ne peux pas. Tu peux pas relire toutes les études, tu ne peux pas refaire et réanalyser et revérifier toutes les données de toutes les études qui ont composé le GIEC. Tu peux
Ouais.
pas.
Mais alors Tiglo dit, et c'est pas ce que je prétends, je suis obligé de prendre des raccourcis en parlant du chat. Alors, même si on comprend mal, je pense que ce point il est intéressant de se dire. Ouais,
Ah oui, moi c'était
moi
pas
je pense
pour.
que c'est difficile d'avoir les infos sur tout, et si. Voilà. Un représentant algorithmique qui lui aurait toutes les infos, il sait ce que je pense du climat avec la connaissance que j'en ai, et il peut prédire ce que je penserais d'autres sujets si j'avais le même niveau de connaissance, quoi. Ça serait un peu l'idée, quoi.
C'est ça. Et l'idée, c'est de dire, est-ce que ça serait quand même pas un fonctionnement bah, déjà plus démocratique, dans le sens où. Ta voix et ton avis seraient. Enfin, c'est pas difficile d'être mieux représenté qu'aujourd'hui, quand même. Quand tu vois le. Ça veut pas dire c'est déjà bien hein, ce qu'on a. Mais
Oui.
quand même, faut. Voilà.
Allez
Bon.
voter quand même. Ce qui peut nous
Oui,
arriver de
non, mais
pire,
non.
c'est de laisser les personnes avec des avis différents, choisir des représentants qui nous représentent encore moins qu'actuellement. Ça peut
Exactement.
arriver, ça
Donc.
peut arriver, les gars, ça peut arriver.
Donc, donc du coup, c'est pas pour dire que notre système il est catastrophique. Il est mieux, il est bien mieux que d'autres systèmes qu'on a eu avant. Mais par contre, c'est vrai que on n'est pas hyper bien représenté et que il suffirait de peu pour qu'on soit mieux représenté. Et après, il y a aussi ce truc-là de, tu peux très bien dire, il y a des sujets qui sont de l'ordre parce qu'on part toujours sur l'expertise. Mais en fait, il y a plein de choix qui sont juste de l'ordre de qu'est-ce que tu trouves plus juste ou plus souhaitable pour la société. Et là, pour ce genre de choix, tout le monde est aussi légitime pour dire est-ce qu'il faut taxer ou pas les milliardaires?
Ouais, il y a plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets politiques qui sont des questions de valeur où t'as pas besoin d'avoir tant de. Est-ce que t'as besoin de tant d'informations que ça pour te positionner sur. je sais pas, le droit à mourir, par exemple.
Ben, c'est là où je pense que des fois, on peut tomber dans ce biais de l'expert et le fait de tout rationaliser en mode, non, mais quand on aura vraiment tous les éléments, on pourra choisir. En fait, c'est nier qu'au fond du fond du fond de ces choix-là, il y aura toujours une morale arbitraire. Tiens, moi, ma morale, elle est arbitraire. Et à un moment, il faut que j'accepte, et même dans les débats...
Arbitraire, je sais pas si c'est le bon terme.
Ah, c'est pas le bon
Subjective
terme,
ou...
peut-être. Oui, c'est ça. Oui, pardon, pardon. Mais en fait, oui, totalement subjective. C'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être alimenté par des connaissances scientifiques pour dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. C'est pas, tu vois, c'est juste. Et ça, il faut l'assumer. À un moment, il y a un truc où tu tombes sur un truc qui n'est pas juste rationnel.
Ouais, je sais pas si on a le bon mot. En tout cas, qui n'a pas besoin de justification.
Ouais, ça qui n'a pas.
Et comment on gère le désir de s'abstenir avec un représentant algorithmique qui, par construction, sort un vote à chaque fois qu'on lui pose une question? Bah, peut-être on pourrait le restreindre sur un nombre de sujets, je sais pas. Enfin, on est sur des choses, on est quand même très éloigné du fonctionnement actuel. C'est plus des exercices de pensée là qu'on vous propose.
Ouais, mais c'est quand même des questions et c'est des questionnements qu'on se pose dans le livre. Hein. Donc on n'est pas hors sujet. Hein. C'est vraiment
Ouais.
c'est ce genre de truc. Et si tu veux là, il faut voir que la plateforme Tournesol, c'est une plateforme de recherche pour essayer d'amener des réponses de plus en plus pertinentes à ce genre de questions.
Mais quand on voyait par exemple que aujourd'hui ce qu'on pense, ça dépend de ce à quoi on expose et ces algorithmes de recommandation jouent sur ce qu'on expose et il y a des gens qui peuvent les manipuler, ça veut dire que demain une grande puissance peut manipuler les représentants algorithmiques, quoi.
Parce qu'elle peut manipuler ce que pensent les gens. Attends, je
Bah
crois la boucle.
Bah si 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 parce que elle manipule ce que l'algorithme de recommandation te montre et ça influence ce que je pense d'un certain nombre de sujets, tu vois.
Ah, ouais. Alors, effectivement, c'est pour ça que ce qu'il faudrait, c'est que. Déjà, il faut assumer qu'à un moment, on va se mordre la queue quelque part. C'est-à-dire que.
Oui, bah enfin ce que je dis là, c'est vrai parce que c'est déjà le cas. Et on le sait, influence de la Russie sur les élections américaines et ce genre de trucs. Il y a déjà ce type d'influence.
Et par contre, c'est vrai que tu te dis juste, et puis c'est la base du constructivisme moral, c'est de dire ça, c'est de dire, il n'y a pas de bonne morale, mais par contre, si on a tous l'impression qu'on participe à sa construction, c'est la meilleure manière pour qu'on accepte
Qui est une
le
adhésion.
jugement. Et en fait, ça, c'est le but de ce système aussi, c'est de créer l'adhésion. Parce qu'en fait, c'est en créant l'adhésion que tu facilites et tu optimises le bon fonctionnement du système. Et donc que tu optimises le bonheur de tout le monde. Et donc c'est vrai qu'un système où tout le monde a l'impression que son avis est écouté et où tout le monde a l'impression qu'il a la main sur les informations qui sont diffusées, par exemple, tu pourrais te dire que c'est un système qui a plus de chances de récolter l'adhésion de tout le monde sans que... Personne ne se sente trop contraint en liberté non plus. Tu vois. On surfe toujours entre ces deux trucs. Entre d'un côté quelque chose de très centralisé et après quelque chose de très décentralisé.
Ok, il nous reste un quart d'heure, tu veux peut-être aborder la partie 3.
Ouais. Non, mais c'est. Je sais pas, moi, c'est. Ouais, c'est une question que j'aime beaucoup. Hein. C'est une question que j'aime beaucoup et. À la base, le livre, je voulais faire que sur ça. Mais après, je pense que c'était beaucoup mieux de ne pas le faire que sur ça. Parce que c'est bien si ça. En gros, à la fin des deux premières parties, tu te dis, ah ouais, ok, ils ont parlé d'un vrai gros problème. Super, on a bien compris, c'est un gros problème. Enfin, si on a fait notre boulot, on est censé avoir bien compris qu'il y avait un gros problème. Deuxième partie, les gens sont censés se dire, ah ouais, c'est vrai, c'est des pistes hyper intéressantes. C'est vrai qu'en fait, il y a des solutions, il y a des algorithmes qui peuvent nous permettre d'être dans une société où on apaise et on atténue ces problèmes. Par contre, tu arrives face au même problème que sur le changement climatique. Si tu te dis, ah ouais, mais alors là, le changement, il doit se passer à un niveau et à une ampleur qui fait que c'est dur de se dire, bah, ça va se passer dans les bons ordres de grandeur, etc., etc. Parce que. Il n'y a pas de gouvernance mondiale, parce que ça nécessite une remise à plat de plein de choses, notamment de régulation à des niveaux qui n'existent pas pour ce qui est des big tech, etc., etc. Et du coup, il y a un peu ce truc où on peut tomber dans une sorte de désespoir, de dire, ah non, mais c'est hyper intéressant vos solutions, sauf que vos solutions, elles se diffuseront jamais à l'échelle qui est l'échelle nécessaire pour que ça soit pertinent. Et donc, du coup, notre troisième partie, elle s'appelle Agir face à l'abîme.
C'est beau.
C'est beau, c'est beau. Et ça a été trouvé par notre éditrice Nathalie, qui je crois, en fait, elle nous avait mis un commentaire de la fin de la deuxième partie. Elle avait mis un commentaire en mode à la relecture. Hein. Elle avait dit, ah ouais, que faire face à cet abîme? Et donc, du coup, on a fait, ah, c'est joli titre. Parce que c'était effectivement, c'est exactement ça. On sait bien que face à ça, il y a un peu un truc qui est phénoménalement désespérant. Et donc, du coup, dans la troisième partie, on parle de ça. On parle de ces deux travers dans lesquels on peut tomber. Le premier, c'est le syllogisme du politique, je crois qu'on appelle ça. Le syllogisme du politique, c'est de dire la situation est dramatique, il faut faire quelque chose. X est quelque chose. Du coup, je fais X.
Ouais, proposer une solution juste pour avoir
Pour se
l'impression
dire
de
qu'on fait.
faire. Ouais.
Mais pour faire un truc. Et honnêtement, dans le climat, ça existe beaucoup. En fait, c'est vrai, il y a urgence, il faut faire quelque chose. Et en fait, du coup, t'as.
Mais changer les toilettes en plastique, c'est pas.
Exactement. C'est pas le truc le plus ouf à faire, tu vois. Ou alors se mettre à protester contre tous les trucs par exemple, de champs de photovoltaïque. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc à faire. Dans tous les trucs à faire. Alors, il y a des gens qui peuvent protester contre ce genre de choses en étant éclairés et conscients, tu vois. Et là, tu vois, c'est des débats d'opinion. Moi, je partage pas cette opinion, mais pourquoi pas? Mais il y a aussi des gens qui vont se précipiter sur des actions parce que ils sentent qu'il y a un problème et ils veulent juste donner une voie de sortie dans l'action à ce ressenti qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est le premier travers. Et après, le deuxième travers, c'est bon, en fait, tout ça, c'est trop complexe. Du coup, cynisme pseudo-éclairé de je sais que c'est trop complexe, je sais que je n'ai pas d'impact à l'échelle qui est nécessaire, et je sais qu'on ne pourra pas changer, ou je pense savoir que ces systèmes, on ne pourra pas les changer à l'échelle où il faut, du coup, je fais rien. Et je vais en vacances aux Bahamas une fois par semaine, parce que quand même, en attendant, c'est quand même cool. Et en fait, voilà, c'est les deux positions. Il y a une position, je la trouve très bizarre dans le sens de un peu dogmatique de dire il faut faire quelque chose, donc le truc qui correspond à mon dogme, mon idéologie, c'est forcément le bon. Et donc, en fait, je vais essayer de convaincre les 9 milliards de neurones que sont tous les individus humains que moi j'ai la solution et que si on fait tous comme moi ou comme moi je pense qu'il faut qu'on fasse, ça va être la solution. Et sans tomber non plus dans l'inaction. Et je pense que cette voie entre les deux, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Et elle est difficile à trouver. Et donc, toute la troisième partie, elle est pour donner ce que nous, on pense être le bon truc. Non, mais en fait, moi, c'est un truc avec lequel je suis bien maintenant, de me dire, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Et pourtant, je suis quand même dans l'action. Et je suis pas dans l'action en me disant, je suis pas sûr que les algos de recommandation de tournesol soient la solution qui se diffusera et qui sera la bonne solution. J'en suis pas sûr. Mais par contre, je suis persuadé que dans le pari que je fais, c'est une brique technologique qui a une chance d'apporter quelque chose demain et qui a une chance d'être choisie demain. Parce que aujourd'hui, elle ne sera pas choisie, parce que pour toutes les raisons qu'on a données. Capitalisme attentionnel, économie de l'attention, il n'y a aucune raison que Google nous dise ah, c'est hyper intéressant votre algo, on va l'implémenter. Parce qu'en fait, si YouTube fait ça, ils perdent à peu près toute leur part de marché dans la seconde. Mais par contre, je pense que dans une société qui demain sera bien plus consciente des problèmes générés par les algos de recommandation, il y aura des sociétés qui seront capables de mettre des régulations qui favoriseront la diffusion d'algorithmes tels que Tournesol. Et ce jour-là, eh bien, on aura gagné vachement de temps que Tournesol, pendant des années, ait fait ce travail-là et l'ait avancé. De la même manière, tu vois, c'est pour le coup, moi, cette réflexion, elle m'a été aussi inspirée par le Shift Project et ce que disait Jean Covici quand il a présenté le plan de transformation de l'économie française. Il avait exactement ce raisonnement. Et ce qui est pour moi un très bon raisonnement, de se dire, quand tu es dans l'urgence, tu inventes pas le plan d'urgence. Tu prends des plans qui existent déjà. Et donc toi, en tant que militant un peu humble, tu te dis juste, si j'ai raison de penser qu'il y aura une urgence qui va dans ce sens-là, préparons la brique d'urgence, la brique techno ou la brique de comportement d'urgence qui correspondra à ce moment-là, si j'ai raison en fait de penser que ça va aller dans ce sens-là. Et si j'ai tort, ben j'ai tort.
Donc vous préparez des briques utilisables au besoin.
Ah, je pense très clairement que Tournesol est une brique technologique qui est utilisable le jour où collectivement on deviendra bien plus conscient des problèmes des algos de recommandation. Et d'ailleurs, dis-toi que c'est exactement ce qui s'est passé pour Police. Donc Police, c'est POL.is, qui est une plateforme justement collaborative pour faire émerger le consensus d'un grand nombre de personnes. Et en fait, cette plateforme, elle a été conçue par des gens qui ont été frustrés de voir que pendant les révolutions arabes et pendant le mouvement de Occupy Wall Street, il n'y avait aucun outil, à part faire ça à 4000, là, tu sais, quand tu agites les bras, là. Sauf que quand tu fais ça à 4000, ça marche moins. En fait, il n'y avait pas d'outil numérique pour faire émerger les opinions et les consensus d'un grand nombre de personnes. Et ils ont fait une plateforme qui s'appelle Police, et qui n'a pas été utilisé par Occupy Wall Street et qui n'a pas été utilisé pour les révolutions arabes. Et par contre, qui a été récupéré par Taïwan au moment de la révolution des tournesols en 2014.
C'est quoi comme plateforme?
Donc pareil. Hein?
C'est quoi comme plateforme?
Paul.is.
Paul.is, ok.
Ouais. Alors, il faut s'inscrire. C'est exactement ça, c'est qu'en fait ils ont fait une brique et cette brique il s'avère qu'elle a été utilisée dans un contexte particulier qui a fait qu'ils étaient conscients que ça existait, ils avaient envie d'utiliser, de faire émerger du consensus, etc. Donc en fait, si on a raison de penser que les algos de recommandation vont générer plein de problèmes, on a espoir que notre conscience collective de à quel point c'est un problème augmente et qu'un jour, il y ait des sociétés en France ou ailleurs, tu vois, des groupes, des organisations qui disent « Ah, c'est tellement un enjeu, ben ouais, on prend cette brique parce que ça répond à un problème qu'on a identifié et dont on est maintenant conscient. »
Ouais.
Ouais, ben Guillaume, Police est un système en temps réel permettant de recueillir, d'analyser et de comprendre ce que pensent de grands groupes de personnes dans leurs propres mots grâce à des statistiques avancées et à l'apprentissage automatique. Et notamment, ce que fait Police, c'est qu'en gros, ils arrivent à faire émerger du consensus. Et c'est hyper fin, c'est-à-dire qu'en fait, les propositions qui restent et qui sont mises en avant sont les propositions qui génèrent le plus de votes positifs. Et par exemple, une proposition qui va générer la moitié des gens qui sont hyper fans et la moitié des gens qui la détestent, eh bien, c'est une proposition qui va avoir tendance à pas être mise en avant par la plateforme.
Donc ça cherche un compromis politique, quoi.
Ouais, ça, c'est pas un compromis, hein, ça cherche les positions sur lesquelles les gens sont consensuellement d'accord.
Ok. C'est
l'inverse d'un réseau social. Mais en fait, ça, c'est ce que je viens de dire, je pense, c'est une application de Police. Et en gros, la vraie application la plus large, c'est vraiment recueillir et analyser, comprendre ce que passent de grands groupes de gens. Mais ce que pensent les grands groupes, tout le monde, c'est pas ce que pensent les orateurs avec le plus de charisme et qui vont hurler le plus fort.
Mais ça veut dire que ça, je peux l'utiliser pour savoir ce que ma communauté veut pour les prochaines vidéos, par
exemple ? Ouais. Bah nous, on l'a utilisé pour Tournesol, tu vois, pour essayer de se faire un avis sur un truc, voir où c'est qu'on était positionné, etc.
Et vous avez eu combien d'utilisateurs?
Ah, nous, on n'était pas beaucoup. Hein. Non, nous, là, quand on l'avait utilisé, nous, on était 10 ou 15, mais toi, tu peux utiliser vraiment avec beaucoup de monde.
Ouais, je serais curieux de voir
Enfin,
ce que ça fait à grande échelle.
ouais.
Enfin, grande échelle.
Ouais, mais enfin, à plus grande échelle que
Faut que
ce
je
que nous, on
regarde.
a fait, c'est sûr. Ouais, mais évidemment, ce serait hyper intéressant.
Il y avait une remarque intéressante de Tiglo, je sais pas s'il est encore là. Nous ne serons effectivement pas experts sur tout. Je pense que nos valeurs morales sont construites en partie à partir de nos connaissances. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Plein de gens
Ouais.
sont sincèrement convaincus de
Pas que.
mesures qui contribuent à déstabiliser la vérité de notre planète. Vous semblez présupposer qu'arriver à un haut niveau d'adhésion fait converger vers une bonne solution à un problème. J'ai acheté le livre pour creuser. Et t'as vendu un livre, Jean. Merci pour ces éléments de réflexion. Mais du coup, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un sophisme de démocratie dans tout ce que tu racontes là? Comme
Bah
si...
alors ça c'est ouais. Alors déjà le sophisme de la démocratie dans tout ce que je raconte, il est tempéré par le fait qu'on a parlé de délégation d'expertise, de démocratie liquide et tout, qui sont quand même déjà des sortes de garde-fous, tu vois, à ce côté très trop démocratique. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Après, tu tombes sur la question de est-ce que la démocratie c'est bien? Est-ce que c'est pas le moins pire des régimes parmi tout ce qu'on a testé? Tu vois, là j'ai montré ça. En plus, Churchill il a deux citations qui sont une citation qui est la meilleure citation pour dire que la démocratie c'est pas mal, quand il dit que la démocratie c'est le pire des systèmes à part tous les autres qu'on a testés. Et une autre citation où il dit, apparemment, je crois qu'il a dit dans ses mémoires, mais il dit le meilleur argument contre la démocratie, c'est 5 minutes de discussion avec n'importe qui dans le métro. Qui est un argument très très dur et très très condescendant. Mais que.
J'ai pas retenu les mêmes citations que toi de Churchill.
Ah, mais t'as retenu lesquelles, toi?
Moi j'ai retenu. Je crois que c'est. Il y a une députée féministe. Elle lui dit Churchill, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre café. Et il lui a répondu si j'étais votre mari, je le boirais. Mais bon, voilà. On se rappelle pas des mêmes trucs.
Ah, il était à un level de punchline quand même qui
Je sais pas si
est.
c'est vrai, ça paraît un peu trop beau, on dirait des trucs faits a posteriori tellement c'est drôle.
Ouais. Ouais,
Mais sur la, y a,
mais
mais du coup, ouais,
et
sur la
donc.
démocratie, ouais, du coup, si on est tous, si c'est un choix démocratique de détruire le climat, par exemple, c'est le bon choix, quoi.
Mais en
Parce
fait,
qu'on y va
la
tous
question c'est.
ensemble et c'est notre choix collectif de.
La question à se poser pour moi, c'est plutôt de se dire comment tu forcerais une majorité de la population qui a envie de générer du changement climatique de ne pas le faire, à part d'un régime où en gros certains vont prendre le pouvoir sur d'autres. Enfin, pourquoi pas, mais ça me paraît. Moi, sur le long terme, il me paraît plus probable. Qu'on arrive à un résultat positif en faisant effectivement confiance en l'intelligence, en la sagesse des foules numériques, à partir du moment où effectivement il y a une certaine régulation de l'univers informationnel. Et
Ouais,
pour
c'est.
ça, mais c'est typiquement le raisonnement de la Convention citoyenne.
Ouais.
Tu prends 150 gonzes au hasard. Tu les formes et tu te rends compte qu'une fois qu'ils sont formés, ce qu'ils disent n'est pas non plus trop déconnant. Et donc, le truc de la démocratie là, algorithmique, ça ne marche qu'à partir du moment où, par contre, effectivement, sur la recommandation et sur la diffusion de l'information, il y a une certaine régulation.
Parce que former 150 personnes, c'est faisable, mais éviter les biais d'information sur. Enfin, avoir un système informationnel correct, c'est compliqué, quoi. Donc.
Ah ben, c'est. Oui,
Voilà.
c'est l'enjeu des algos de recommandation. Hein.
Mais en fait, ouais,
On
j'ai pas
retombe.
fini. J'ai lu que la partie 1 pour l'instant, parce que, en fait, cette partie 2 fonctionne que si tu as réglé les problèmes de la partie 1, quoi.
Comment dire? Ah, tu veux dire résoudre les problèmes de la partie. Ah non,
Bah,
je comprends pas.
la démocratie algorithmique, elle a un sens que si l'information qu'on reçoit est correcte, non?
Oui, mais en fait. Sur la partie 2, on se focalise surtout, on prend l'exemple de la démocratie algorithmique juste pour montrer la perspective dans laquelle on va. Mais effectivement, la première étape, et c'est d'ailleurs pour ça que Tournesol parle d'algo de recommandation, c'est déjà avoir un univers informationnel plus sain. C'est la première étape.
Ouais.
Et ça, c'est les algos de recommandation. C'est pas que les algos de recommandation. C'est aussi l'éducation, c'est aussi tout ça. Mais clairement, il ne faut pas minimiser la capacité à biaiser notre éducation collective quand les algos de recommandation.
OK.
Et donc voilà, la dernière partie, elle est pas mal sur ça, cette position quand même. Et moi, j'aime bien cette position où on se dit, ouais, tu vois, Blaka 9999, elle dit, c'est comme convaincre les personnes de baisser leur niveau de vie. Tu vois, il y a un peu cela, mais on sait bien que ça va être difficile. Tu vois, c'est difficile. Par contre, il y a plein de choses dans l'histoire de l'humanité qui sont passées parce qu'il y a des moments en fait où tu atteins un tel degré de déséquilibre ou de tension que en gros des choses que tu pensais inenvisageables le deviennent. Taïwan pensait en 2012, c'était impensable que Taïwan fasse la révolution numérique qu'ils ont fait, avec la transparence qu'ils ont eue après, etc. Par contre, dans un contexte qui change, il y a plein de choses qui sont impossibles juste avant qu'ils le deviennent. Et je pense qu'une manière de voir le militantisme que je trouve à la fois pas dogmatique et à la fois dans l'action, c'est de dire, ben, moi, je sais que je pense savoir qu'il va y avoir des bouleversements comme ça demain, et je prévois juste d'œuvrer pour des briques, des outils technologiques, comportementaux, des manières de vivre qui vont correspondre à ces bouleversements que je pense avoir anticipés. Et c'est un truc qui s'appelle la théorie des possibles adjacents et que moi j'aime beaucoup et ça m'apaise dans ma manière de militer, enfin militer c'est un bien grand mot, mais en tout cas dans ma manière de me bouger et d'essayer de faire des choses. Voilà.
Ok, bon, on a passé 23 heures, on va pas trop traîner, surtout que c'était un petit live.
Ouais.
On n'avait pas tant de gens présents.
Ah, mince. C'est pas grave, je le re... de toute façon, tu vas le mettre sur YouTube. Parce que ouais,
Ouais.
franchement, ouais, je pense que c'était un petit live, mais je trouve qu'on a abordé pas mal de sujets chouettes.
Ouais.
En toute objectivité, comme d'habitude.
Et voilà, je sais pas si on essaie de choper quelques dernières questions, j'ai pas trop relevé de trucs. Et faut que je trouve où est-ce qu'on vous envoie. J'espère que ça vous a plu, qu'on discute de ce livre. Je pense que c'est un livre qui vaut le coup d'être lu, même si j'en ai lu qu'un tiers. C'est un sujet qui est important. Et à ne pas sous-estimer, même si, contrairement à moi, votre survie économique ne dépend pas de ces algorithmes de recommandation, ce qui est quand même un avantage par rapport à moi. Je sais pas
Ah ouais, alors du coup,
si tu as des
je dis à tout
remarques
le
que tu
monde,
veux prendre, ouais.
je dis juste, n'hésitez pas à le lire et à laisser des commentaires sur, hélas, Amazon. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça que l'algo, il conseille. C'est parce que les climato-sceptiques laissent des commentaires à balles positives des José, là, que, en fait, tu tapes climate, mais tu te retrouves avec tous les mecs. Parce qu'en fait, ces gens-là attirent des gens qui laissent des commentaires. Et ça, c'est un truc horrible.
Ok.
En fait, c'est un truc qui est un peu horrible. C'est si ton audience a tendance à laisser des super commentaires, ben en fait, quelles que soient les dingueries que tu peux sortir,
Il nous faut
ça
des
passe.
fanatiques en fait. Il nous faut des portraits de
Et
nous en porte-clés à distribuer dans la rue.
ben c'est l'embêtant, c'est que, encore une fois, les algos de recommandation, tels qu'ils sont conçus, donne prime aux émotions et donc donne une certaine prime à un certain degré de fanatisme. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Et ils vont pas
Yes.
donner prime à des gens qui disent, Ouais, je suis pas sûr. Ta, 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 quoi. Parce que ça va générer moins de commentaires, moins de fanatisme. Dommage.
T'essaies de manipuler les algos de recommandation?
Ouais, mais j'essaie à tout de suite. Donc, voilà, je dis à tout le monde, n'hésitez pas à laisser des super commentaires sur Amazon. C'est horrible.
Alors,
Ah,
Louis Pouzin, t'es pas obligé
le...
d'acheter sur Amazon pour les 5
Ah,
commentaires sur Amazon.
et non, mais... Non, mais ah, mec, c'est là où Amazon, ils sont trop forts.
Ah, t'es obligé?
Ouais, pour laisser un commentaire sur Amazon... Non, non. Pour laisser un commentaire sur Amazon, je crois qu'il faut avoir dépensé 40 € dans l'année qui précède. Non.
Ok.
Les gars, laissez tomber. Ils sont diaboliques. Si vous voulez regarder la vidéo la plus diabolique sur Terre, vous tapez sur YouTube Dark Pattern. Et le premier exemple de cette vidéo, c'est à quel point Amazon a rendu impossible, littéralement impossible, de supprimer son compte. Si tu veux supprimer ton compte sur Amazon, il faut genre aller sur un sous-menu, d'un sous-menu, d'un sous-menu, d'un sous-menu, d'un sous-menu, ouvrir un onglet, parler à un mec qui va... Enfin, c'est impossible.
Bon bah du coup je laisserai pas de commentaires sur Amazon, Jean-Loup.
Voilà.
Comme tu m'as envoyé le livre.
Là.
Bon pour ceux qui se risqueront à acheter sur Amazon. Ok. Ok. Est-ce que mon moi algorithmique mettrait une bonne note au livre sans l'avoir lu? Elle est pas mal cette question.
Ah, pas
Sans la...
mal.
Ouais.
Putain, pas mal. Ouais, ben je peux pas te dire, mais je pense honnêtement que ça serait pas difficile, si tu veux. Tu vois, si en gros on a les lectures des gens et ce qu'ils ont apprécié lire ou pas, et ce que d'autres ont apprécié et que tu arrives à faire en gros le collaborative filtering, je pense que tu arriverais assez facilement à créer un représentant algorithmique qui décide assez fidèlement la note que tu mettrais à tel ou tel livre.
Et pour les livres climato-sceptiques, c'est encore plus vrai parce que c'est les mêmes arguments avec un
Ouais,
différent
là tu es à peu près
échantillonnage,
sûr
mais c'est à
que...
peu près les mêmes à chaque fois. Ça devient un peu nul à la fin. Ok, je vais vous envoyer chez Monté. Vous pourrez lui dire coucou. Il est en train de jouer à Among Us. Et voilà, c'est parce qu'il est dans ma liste d'abonnés. Et c'est un collègue vidéaste, évidemment. Donc je vais envoyer le raid. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu voulais dire, Jean-Loup?
Non, pas plus. Écoutez,
Merci pour l'écoute, merci pour les questions.
ouais, grave. Merci
On
pour votre
espère que
attention,
c'était
du coup, parce
clair.
qu'elle est très précieuse.
Merci à
Donc,
Jean-Loup d'être venu parce que j'avais rien préparé.
allez, pratique.
On se retrouve mardi prochain. Je ne sais pas encore pourquoi. Et voilà. Donc, bonne soirée, bonne nuit. Jean-Loup, un mot de la fin?
Ben, régalez-vous bien et on arrive avec des vidéos un jour.
Un jour promis. Allez, à mardi prochain. Salut.
Ciao.